patience, my friend.
Afraid, are you?
This station is being brought to you via Nullsoft Shoutcast streaming technology. For more information, visit shoutcast.com.
Hi, this is Matthew Stover, author of Shatterpoint and the new Jedi Order novel, Traitor. You are listening to Star Wars on Direct.
Citlan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.citlan.net.
Nul besoin de traverser les ponts pour vous procurer vos produits dérivés de Star Wars. Priorité collection à tout ce que vous cherchez et bien plus encore. Venez découvrir nos nouveaux locaux sur la rive sud de Montréal au 2189 Chemin Chambly à Longueuil. Chez Priorité Collection, notre priorité est la vôtre. 450-651-8482.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Jam its transmissions.
A communications disruption can mean only one thing.
Here they come.
The coordinate tractor beam is pulling us in.
You may fire when ready.
Commence primary ignition.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Après une heure de délai, même une heure et quart, mettons.
Environ.
Encore pire. On pourrait aussi remercier Murphy de sa présence parmi nous. La loi de Murphy qui a fait encore des... Je pense que c'est nos plus gros problèmes techniques.
Ever.
depuis le début. Depuis le début, exactement. Citlan.net est down. Le site web de Star Wars en direct est down. Vraiment, tout est vraiment capoute. Donc, on fait ça off the air.
Exact.
Si on peut dire, vous pourrez si vous l'écoutez, c'est que vous l'écoutez en reprise. Donc, il n'y aura pas de chat, il n'y aura pas de... évidemment. Donc, quand même, je suis en présence de Sébastien, qui est le co-animateur habituel.
Bonjour tout le monde.
On a Martin, qui va faire une petite chronique Star Wars Galaxy à la fin de l'émission.
Salut tout le monde.
Et notre invité spécial qui, on l'avait pas dit, qui serait possiblement en studio, c'est Frank Diorio, je le prononce-tu
oui,
comme
ça. Faut?
Exactement, parle un petit peu plus proche.
Oui.
Voilà, qui est le propriétaire de NyumNyumsUniverse.com, qui fait les...
Les merveilleux dioramas.
Les meilleurs pratiquement au monde. Ben, en tout cas, je n'ai jamais vu des meilleurs. J'ai jamais vu des meilleurs.
Non, non, flatte-toi pas. T'as été invité à la Star Wars Celebration 2 avec un paquet d'autres...
Exactement, on va en parler plus tard dans l'émission. Donc, avec tous ces problèmes-là, ben, on a pris du retard et on va essayer de... L'émission, la faire, on va essayer de la raccourcir un petit peu parce qu'on a une autre émission en anglais à faire ce soir en espérant que tous les problèmes seront réglés. Donc, on va tout de suite aller une petite pause musicale. On revient immédiatement après avec la chronique hyperespace sur les spoilers et toutes les nouvelles sur l'épisode 3
et oui.
Du tournage. Et on revient tout à l'heure.
Présentation de Star Wars en direct.
Et re-bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Et maintenant est venu le temps pour tous ceux qui écoutent les spoilers, mais personne nous écoute à part Martin ici.
Donc, qui se sauve d'ailleurs en courant.
Exactement. Donc, on va commencer immédiatement, Sébastien.
Alors, on prendra pas la peine de répéter les règles. Cependant, on vous demanderait de ne pas discuter des spoilers desquels on va discuter dans les 15 prochaines minutes sur les forums de cette lande de Star Wars en direct ou n'importe quel forum non spoiler.
Et de toute façon, le site est down, donc.
C'est cela. Mais c'est pour ceux qui écoutent en rediffusion, évidemment. Okay. Et c'est une durée de 15 minutes. Alors, on va commencer maintenant. Alors, Hyperspace, qu'est-ce qui se passe présentement? On nous a fait une belle petite publicité pop-up sur StarWars.com par rapport au développement présent et développement futur de Hyperspace. Alors, les sept diaries visuelles de l'épisode 3 sont présentement en ligne. Alors, on voit des photos du tournage de l'épisode 3 qu'on n'a pas vraiment eu la chance de voir avec la webcam. Mm-hmm. Quand même assez intéressant. Il y a un forum pour les membres seulement qui va être bientôt créé, si ce n'est pas déjà fait par la date d'aujourd'hui.
Mm-hmm. Je pense pas qu'ils travaillent la fin de semaine. Quand
non,
même,
c'est
là.
Ça.
Il y a juste nous qui travaillons la fin de semaine.
Toujours au poste. Les fameuses photos before the helmet, alors avant le casque, ça sonne tellement drôle en français. Les photos classiques assez rares de photos Raptor sont très intéressantes. D'ailleurs, cette semaine, on peut voir le Jedi, je vais vous dire son nom immédiatement. Non, on ne dira pas, c'est Jade quelque chose. Assez intéressant comme photo de Jedi d'ailleurs. Et on peut retrouver les anciens Bantha Tracks des archives de Lucasfilm.
Je suis pas sûr rendu à quel Bantha Tracks là?
19, je pense. Okay. Chose comme ça. Ce qui est à venir très prochainement, que nous disait Paul Hans dans une discussion qu'il a faite sur Hyperspace il y a deux semaines environ. Mm-hmm. Faut pas faire des émissions au décalage de trois semaines. Alors, on va voir le retour des images select de George Lucas, qui est un avant-goût pour les membres du service Hyperspace, évidemment. Discussion avec des auteurs, illustrateurs et autres célébrités Star Wars. C'est évidemment, probablement qu'ils vont les avoir avant nous autres.
Ben là, c'est sûr et certain, voyons.
Les méchants. Alors, évidemment, la webcam de post-production qui s'en vient, des rapports de post-production qui vont accompagner la webcam de post-production, et un documentaire sur le Making of Episode 3, qui est probablement encore tourné par Lynn Hale, qui était présente sur les plateaux de tournage à Sydney, en Australie. Et à partir du 7 novembre, on va avoir la chance de pouvoir voir visionner en ligne la série Clone Wars.
Au complet ou épisode par épisode, j'imagine?
Ça va être épisode par épisode, j'ai l'impression.
Mais ça, je suis content, maudit, parce que Cartoon Network, c'est ça, on n'a pas le temps, c'est ça. Si tu veux parler, essaie de rapprocher beaucoup.
Oui, c'est ça. Et évidemment, on va aussi avoir droit à des commentaires audio de la part du créateur de la série Clone Wars, Gandhi Tartakovsky.
Le contenu du DVD, dans le fond, sûr. Les commentaires du...
Alors, comme je vous disais un petit peu récemment, la grosse discussion qui a eu lieu sur le service Hyperspace, c'était la discussion avec Paul Hans. Quelques détails intéressants. Il a dit, mais il répète encore que l'épisode 3 va répondre à toutes les questions des fans. Il y a des idées qui ont été créées durant les 25 dernières années que George a décidé de ressusciter pour l'épisode 3. Certaines sont gardées intactes dans le film, d'autres sont modifiées, puis certaines ne seront pas pantoute dans le film. Évidemment, l'idée de la lave se retrouve dans une de ces trois catégories-là. C'est des questions auxquelles on a déjà eu les réponses dans le passé par Rick McCollum, mais ils reviennent souvent là-dessus. Là, c'est à commencer à se poser des questions, c'est voulu. Là, peut-être qu'ils nous dévient un peu.
La désinformation.
Exact. On va avoir droit à un avant-goût du nouveau vilain l'an prochain. Il va y avoir une webcam dans les bureaux d'ILM au Skywalker Ranch et dans d'autres endroits. Et non.
Mais disons que tant qu'il pointe pas ses moniteurs, ça vaut-il la peine?
Mais même en pointant ses moniteurs, je pense qu'on verrait un gros blur blanc.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. You are not seeing this. You are not seeing this qui bouge un petit peu partout dans l'écran. George Lucas est revenu au Skywalker Ranch il y a deux semaines, puis il a choisi quelques prises qu'il aimerait savoir pour la première bande-annonce, donc ils ont déjà commencé leurs travaux un peu là-dessus. Et on va avoir un nouveau look, on va avoir un avant-goût du look de Padmé cette année. J'ai hâte de voir ça, enceinte, pas enceinte. Et Paul, il nous dit, comme d'ailleurs
mais
plusieurs autres...
Mais elle est enceinte durant tout le film?
Ça serait possible. Hein.
Écoute, si elle accouche à la fin, là.
C'est ça.
Ça se passe pas sur 9 mois. Là,
ils vont peut-être faire justement un code dans le film à un moment donné, si c'est comme
flashback.
8 mois plus tôt. Alors, Paul indique que l'épisode 3 va lui permettre de voir la trilogie classique avec un nouvel angle. Ce qui l'a frappé le plus, c'est de comprendre la profondeur de l'amitié entre Obi-Wan et Anakin. Mais il dit maintenant, le duel dans le New Hope lui donne des frissons. Encore une fois, des commentaires qu'on a entendus de la part d'autres personnes de l'équipe de Lucasfilm. Dans l'épisode 3, nous allons découvrir pourquoi Obi-Wan croyait qu'Anakin était le meilleur pilote de la galaxie. Et Paul n'a pas voulu confirmer si Darth Sidious était un clone. Mais on va y revenir un petit peu plus tard avec les fameux reports des espions de Force.net. Mm-hmm.
Exactement.
Alors, maintenant, côté personnage, on a entendu parler d'un Jedi albinos avec un costume sombre, une barbe dans le même style de celle de Qui-Gon dans The Phantom Menace. Ça, à suivre, je pense que ça va être intéressant.
Mais une Jedi?
Non, c'est un Jedi.
Un Jedi.
Un Jedi. Et Rena Owen qui s'est faite interviewer, alors on lui a demandé si elle était Tonwi dans l'épisode 3, comme elle l'a fait dans l'épisode 2. Elle répond que non, ça va être une sénatrice, un être humain. On va pouvoir enfin voir son visage dans le film, elle est d'ailleurs très contente par rapport à ça. Est-ce qu'elle a des séquences de combat? Non, elle répète qu'elle est sénatrice, mais par contre les diplomates, ils peuvent prendre des actions beaucoup plus drastiques, beaucoup plus radicales. On lui a aussi demandé si elle a eu la chance de lire le scénario au complet ou seulement une partie. Puis apparemment qu'elle a eu l'accès au scénario au complet. C'est quand même
surprenant.
Très, très surprenant. Moi, j'ai l'impression que c'est encore une technique de désinformation.
C'est un personnage très, très, très secondaire.
Elle aurait ces deux pages.
C'est ça, c'est tout. Ouais.
Et Christopher Kirby, qui joue dans The Matrix Reloaded, ainsi que dans le prochain épisode de Star Wars, dans Star Wars épisode 3, il a donné quelques petits détails. Il a demandé s'il savait quel type de costume qu'il pourrait porter. Il dit qu'il pouvait pas le dire, mais que les costumes sont vraiment extraordinaires, que c'est fantastique, sont immaculés. Ça doit être vraiment des costumes de saint. On lui a demandé s'il était parmi les acteurs principaux. Il dit oui. Il dit, j'ai d'ailleurs très difficile à cacher. Il dit, vous allez me voir, vous allez dire, regardez comme le gars, il est large.
Ça sent le nouveau vilain.
Nouveau vilain, Wookiee, je sais pas, une nouvelle race extraterrestre, un Rancor, quelque chose.
C'est peut-être pas un Wookiee, parce que s'il dit qu'on va le reconnaître.
C'est ça. Alors, on lui a aussi demandé s'il était pour être à l'arrière-plan dans le film. Il dit... que tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il va être il sera pas à l'arrière-plan, puis que ça répond à la question, puis ça le met pas dans l'eau chaude avec Lucasfilm. Bref, il peut pas donner plus de détails. Sujet à suivre. On lui a demandé s'il était pour avoir une figurine de son personnage. Il dit qu'il est sûr que oui à deux reprises. Alors, mais effectivement, quand on peut voir.
C'est ça, évidemment. Tout le monde veut voir cette figurine. Anyway, toutes les figurines sortent éventuellement.
C'est ça.
Ça peut être dans 10 ans, mais.
En 18 ans de contrat, je pense qu'on est correct. Alors, maintenant pour les fameux TFN Spy Report. Alors, on nous a dit que il y a un moment dans le film où les soldats des clones se tournent contre leurs généraux Jedi, puis que Yoda est sur Kashyyyk à ce moment-là. Donc, on va probablement voir Kashyyyk comme faisant partie d'une nouvelle planète de l'épisode 3.
Les clones qui se
retournent contre leurs généraux Jedi. Bref, ils vont
mais
comme.
Kashyyyk, c'est pas la planète
de Chewbacca, c'est ça.
Des Wookiees. Hein.
Mais ils disent pas si ça va être sur Kashyyyk, la bataille, ou sur une autre bataille, mm-hmm. mais probablement que c'est là qu'on va voir la triste mort du Jedi Ki Adi Mundi.
Ok.
Alors, effectivement, il y a une planète de lave dans le film.
Mace Windu aussi, il est supposé de mourir.
Oui, on va en reparler d'ailleurs plus tard. Ouais. La race de l'extraterrestre jouée par Bruce Spence n'est pas sur cette planète, la planète de lave. Il y a une race unique qui vit sur cette planète, on sait pas encore c'est quoi. Lorsque les événements tournent pour le pire, Mace, justement, décide d'avoir une petite discussion avec Palpatine. Et on nous a annoncé la triste nouvelle qu'il y avait des débats inutiles, mais que la clarification est faite. Padmé va mourir dans l'épisode 3. Le plus intéressant, c'est comment est-ce qu'elle va mourir, puis qui va être impliqué dans sa mort.
Est-ce que c'est la vraie Padmé qui va mourir?
Moi, j'ai l'impression que c'est...
Elle meurt mieux que la mère d'Anakin.
Ouais. Donc... c'est déjà une meilleure actrice.
C'est ça.
Ouais.
je suis pas mal certain qu'on peut s'attendre un petit peu mieux de Natalie Portman.
Parce que si on veut de la vraie revanche d'Anakin, il faudrait que ce soit mieux que juste
un
soupir de deux secondes.
Alors, après les événements de la bataille spatiale épique au début du film, le général des droïdes, qui est le nouveau vilain,
ça ressemble à Durge.
C'est échappé. Palpatine a été sauvé, Dooku est mort. Malheureusement, le croiseur séparatiste sur lequel se trouvent Obi-Wan, Anakin et Palpatine s'est brisé et il tombe dans l'atmosphère de Coruscant. Le département des feux de Coruscant envoie des vaisseaux de pompiers pour aider le vaisseau à effectuer un écrasement sans trop de dommages, entre guillemets. Alors, d'ailleurs, on a vu une photo sur Hyperspace qui dit qu'on voyait le dialogue d'un des pilotes pompiers de Coruscant.
Ah ouais, très sur Hyperspace.
Sur Hyperspace.
C'est quoi qu'il disait?
Dans les quelques dernières semaines. C'est, fire, fire. On va aller s'attaquer à ces feux-là pour essayer de les éteindre. Okay. Juste une petite ligne, un petit dialogue. Un peu comme Ricolier dans l'épisode 1, dans le fond. Là. Alors, Anakin espère avoir plus de respect de l'Ordre Jedi maintenant qu'il a tué Dooku et sauvé Palpatine. Lorsque le général des droïdes est retrouvé, c'est Obi-Wan qui est envoyé en mission pour l'attraper et non Anakin. Suite à son enlèvement, Palpatine augmente sa sécurité et Anakin devient son garde du corps personnel. C'est lui que je veux. Anakin doit effectivement faire un choix dans le film. Ce choix lui est donné par Palpatine. En conséquence, Mace Windu choisit de se défendre. Mace versus Anakin, peut-être. Ça va être intéressant.
Ben, Samuel L. Jackson avait tout le temps dit qu'il y avait une mort
épique.
Épique. Donc, si c'est pas contre Anakin, c'est une mort épique.
Exact. Palpatine et Sidious sont la même personne. Le côté obscur cache tout, même les yeux des Jedi. Le nouveau vidéo. Oui.
Jamais deviné.
Alors, comme on nous avait déjà dit, le nouveau vilain est le chef de l'armée des droïdes. C'est la machine ultime pour tuer les Jedi. Il n'est pas à 100% robotique, mais vous attendez pas à découvrir son histoire dans le film. Vous allez en savoir autant que Darth Maul dans l'épisode 1. Donc, probablement un livre par la suite qui va expliquer son histoire, d'où il vient, etc. Alors, Anakin.
Ou la série Clone Wars.
Peut-être. Anakin tue Dooku très tôt dans le film, comme ça se fut rapporté plus tôt. L'ancien Jedi n'est pas nommé officiellement Darth Vader avant la scène suivant le bain de lave. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas des choses très très obscures avant le duel. Non, Anakin, non! Le Blockade Runner Tantive IV que nous voyons dans A New Hope est définitivement celui que nous allons voir dans l'épisode 3. Cependant, il sera plus propre et moins usé que celui que nous voyons dans A New Hope. Oui. C'est effectivement le vaisseau dans lequel Bail Organa voyage à Alderaan à la fin du film. Il est complet, incluant un train d'atterrissage. Il a été aussi redessiné pour donner un petit look un peu plus frais. Oui.
Il va être tout chromé blanc. Là.
Ah non, pas un autre.
Pas chromé, mais il va être quasiment probablement assez blanc. Là.
Ça se peut.
Probablement.
Les capsules de sauvetage sont aussi vues et utilisées dans le film. Il y a une bonne chance que nous voyions une scène sur le pont du Tantive IV et nous devrions aussi le voir atterrir sur une planète. Alors,
Alderaan, non?
Peut-être. Alors, l'espion ne sait pas si le côté obscur de la Force va être utilisé pour couvrir le vrai Palpatine, mais Palpatine va montrer son véritable visage dans l'épisode 3. Il ne sait pas combien de temps les gens du département de maquillage ont vraiment préparé pour les plans rapprochés, mais ils ont travaillé dessus. Une image de l'épisode 3 qui montrait l'acteur dans son costume prêt à filmer une scène, c'est intentionnellement fait pour tromper, car ce n'est pas vraiment la façon que nous le voyons dans le film. Eh bien, c'est le côté qui montre aux Jedi, mais lorsque nous allons voir son vrai visage sera un retour vers Return of the Jedi. Des informations, encore une fois.
Ça, j'avais compris que...
Oui, c'est
Le look qu'il y avait dans Jedi, dans le sixième, c'est son vrai look qu'il y avait même dans le premier et deuxième film.
C'est ça.
Sauf qu'il utilise la Force ou le Dark Side pour donner l'allure d'avoir
50
ans.
Comme Luke le faisait d'ailleurs dans, je pense, c'est l'Étoile de Cristal ou un de ses livres.
Il se fait comme un camouflage.
Exact.
C'est ça, puis je pense qu'il disait que quand l'empereur, Palpatine utilise la Force, il est plus capable de se cacher. Fait que c'est là qu'on verrait son vrai visage.
Hein. Alors, pour terminer cette chronique, dans un test de maquillage, Ian McDiarmid a le même visage que l'empereur dans Return of the Jedi, avec des yeux jaunes et de terribles crevasses au visage. Une scène, il ronge ses dents en regardant la caméra. Il a des cercles foncés, rouges et bruns autour des yeux et ses lèvres sont craquées. Son visage n'est pas usé, il est tout simplement maléfique. Son visage est couvert dans ce premier test. Deuxième test, on voit la tête complète de Palpatine. La prise montre Ian avec un sourire maléfique devant la caméra. On peut vraiment le voir sous le latex, le travail est vraiment remarquable. On peut voir le vieillissement sur son cou et son front, il est vraiment maléfique. Alors, pourquoi est-ce que le visage de Darth Sidious est ainsi? Il a toujours été, Palpatine est un déguisement, un personnage fictif qu'il a adopté pour avoir des pouvoirs politiques. Il n'est pas capable de garder ce déguisement pendant qu'il utilise ses pouvoirs, et vous allez le voir flasher son look Sidious tôt dans le film, jusqu'à ce qu'il dévoile son vrai visage.
Ça, peut-être dans l'attaque des clones, hein, parce que quand Dooku arrive à la base, tu vois, il a sa capuche, mais il a pas l'air vieux encore. C'est comme s'il se cache encore. Ça.
Alors, un petit Hated Cool News nous a parlé d'Anakin. Anakin, après sa rencontre avec le volcan, doit dire qu'il déteste ses nouveaux films. Après avoir vu le maquillage, il était vraiment impressionné. Deux bras et les jambes d'Anakin sont complètement brûlés et son visage est horrible, vraiment troublant. Il a aussi vu le vaisseau Blockade Runner qu'on voit dans l'épisode 4, donc le fameux Tentive 4. Et il y a eu trois tests qui ont été faits pour les versions brûlées d'Anakin. On vous donnera pas les détails, on vous invite à aller les voir sur setlan.net lorsque le site sera de retour en ligne. Évidemment. Et c'est quand même une version, la dernière version est assez inquiétante. Eden est brûlée, mais pas aussi sévèrement que les autres versions. Des poches sous les yeux, les cheveux ont presque disparu. Côté gauche du visage brûlé grièvement. Puis la brûlure descend jusqu'au cou et le reste de son corps est complètement brûlé. On dirait qu'il a été brûlé au deuxième degré.
Puis il y a la même cicatrice.
Exact.
Quand il enlève le masque.
Ouais. Et un petit détail sur le nouveau vilain qui est assez intéressant. Il n'y a pas de bottes ou de souliers. Il a des pieds métalliques. Et on sait que c'est le chef de l'armée des droïdes. Alors, c'est la fin de la chronique hyperespace.
Et voilà. Donc, on peut maintenant rappeler Martin.
On va aller chercher Wookie. Alors, petite pause musicale.
Non, on va commencer immédiatement sur le sujet. Fais juste l'appeler. Bon, maintenant, sujet... on vient d'entendre le Wookie. Bon, on va immédiatement commencer. Je saute les nouvelles diverses de Star Wars, étant donné que l'émission a été écourtée. Commencer plus tard, on va commencer directement avec le sujet principal, avec notre invité en studio, Frank DiOrio. Est-ce que tu as un surnom? Si le monde t'appelle Gnom Gnom ou...
Oui, j'imagine.
Oui, non? Et c'est le fondateur de
NyumNyums.com,
qui est anglophone, qui est un site rempli de tous ses dioramas. Et
aussi avec les visiteurs. Aussi,
les visiteurs.
Une section. Ça avait commencé avec l'idée juste de mettre, pour montrer mes maquettes, pour inspirer le monde, mais après ça, j'ai décidé d'aller plus loin, puis de... montrer des maquettes des autres personnes qui font les mêmes genres de...
OK, il y a des gens qui soumettent des...
Oui, disons que toi, tu fais des maquettes, tu m'envoies des photos, il y a une section visiteurs.
OK.
On a 99 visiteurs, je pense, à date.
OK.
Où c'est comme le range s'en va comme de très débutant à encore plus mongol que qu'est-ce que je fais. Alors, c'est vraiment impressionnant de voir. Moi, je m'excite autant de voir qu'est-ce que les gens m'envoient que...
Ben, voir que t'es une inspiration pour plein de personnes.
Ben, c'est ça. C'est
quand même intéressant.
C'est intéressant de voir ce côté-là, ouais.
En tant que fan de Star Wars, t'as-tu vu les premiers films au cinéma? C'est quand est-ce que t'as accroché à Star Wars?
Je suis un vieux crotteux. Alors, j'ai vu... J'avais 12 ou 13 ans quand le premier est sorti en 77. Okay. Puis je me souviens un ou deux mois avant où ce que mon meilleur ami qui habitait sur la maison en face de chez moi, il courait vers moi avec il y avait une revue Starlog.
Okay.
Je sais pas si ça existe encore.
Oui, Starlog existe encore.
Puis sur la couverture, il y avait l'illustration de Ralph McQuarrie d'un TIE Fighter puis X-Wing. Puis là, il me disait, regarde, ça va être tellement cool ça. Puis j'étais là comme, ah, ça a l'air plate. C'était juste la peinture, je sais pas.
Et un bond de 26 ans dans
après
le futur.
Ça, je pense que deux semaines après, quand le film est ouvert, on a tellement capoté qu'on est retourné cet été-là, je pense, peut-être au moins 17 ou 20 fois, là. On se cachait dans les toilettes, puis on retournait comme à 3 heures. Après ça, on a retourné aux toilettes. Après ça, on retournait à 5 heures.
C'était pas aussi contrôlé que maintenant, les cinémas.
Non. C'était plus facile. Au moins, au cinéma Côte-des-Neiges, c'était comme ça. Mais c'est ça.
Ah, c'est excellent. Bon, tes dioramas, t'as pris l'inspiration des films, bien entendu, mais avant de faire des dioramas, est-ce que t'étais un collectionneur ou quoi que ce soit?
J'avais acheté comme les jouets, les affaires, mais ma mère me les achetait comme quand j'étais jeune. Puis, au début, c'était quand même genre, il n'y avait pas la grosse explosion la première année. Il y avait comme peut-être comme le TIE Fighter, l'X-Wing, puis après le
Land Speeder,
des affaires comme ça. Puis à un certain point, là, après, quand le film il a vraiment décollé, puis c'est ça qui était le fun dans le passé aussi, c'est que comparé à maintenant où ça ouvre en 4000 salles, puis après une fin de semaine, tout le monde l'a vu. Là, t'avais comme deux ans plus tard, puis le film jouait encore
au
en salle, puis t'avais des lines around the block. C'était vraiment capoter dans mm-hmm. ce temps-là. Alors, c'est comme après un an peut-être, là, les jouets tout commençaient à décoller où ce que tu avais les draps, les tasses.
Ils ont vu le potentiel du merchandising.
À ce point-là, où ce qu'on s'est dit, bon, mais on va juste se concentrer. En plus, c'est ma mère qui payait. C'est quoi? On veut juste se concentrer. Sur
moi figurines. Aussi.
On va en profiter, c'est ça. Puis le reste, on oublie ça. Mais c'est ça. Après ça, en 95, quand les figurines ils ont
recommencé, ouais.
Là, j'avais comme mon premier emploi de carrière, si on veut dire, où ce qu'ils me payaient assez un montant.
Une bonne paye, là.
Oui, ou ce que je pouvais me le payer. Alors, c'est comme je n'étais pas obligé de demander à ma mère une chance pour. Mm-hmm. Je pense pas qu'elle me l'aurait acheté, même maintenant. Puis, c'est ça. Alors, je collectionnais même avant de faire les maquettes et tout okay. ça. Et puis, c'est juste que dès le début, quand je les achetais, je les ouvrais quand même. T'sais, c'est comme j'ai jamais acheté mm-hmm. des cossins pour me dire dans 10 ans, je les revends sur eBay, mm-hmm. je sais pas quoi, pour me faire un profit. T'sais. Alors, c'est comme, là, à un certain point, quand il y en avait beaucoup, j'essayais de trouver une façon de
les
mettre en disposition mm-hmm. dans l'appartement. Puis au début, c'était juste sur une étagère normale. Puis ça l'a évolué où ce qu'un de mes amis a dit, tu devrais peut-être faire comme mettre comme genre 5 étagères sur le mur, puis chaque étagère serait une planète. Alors, c'était bien basic. Alors là, ça serait comme
idée,
Earth sur une planète. Après ça,
Tatooine
sur
ouais.
un autre. Alors là, tu peux ajouter des petites bâtisses. Mm-hmm. Alors, dans une, tu sais, au côté gauche, tu peux avoir les Jawa. Après ça, les mm-hmm. Sand Trooper dans un autre coin. Alors, c'est comme, j'étais comme pas au point que maintenant où ce que je trippe essayer de reproduire le plus spécifiquement possible comme les dimensions mm-hmm. des décors, c'était vraiment la dimension de l'étagère que je me basais
okay.
dessus. C'est comme ça que ça
c'est une bonne façon de tout bien présenter.
C'est ça, parce que le plus gros problème que les gens ils me disent, c'est à part de l'argent pour acheter les affaires, mm-hmm. c'est l'espace.
Ouais. Mais regarde-moi ici, monde, je pense ouais. pas que je pourrais collectionner des
l'espace
des
pour faire le. Ah. Ben, en fait,
ben, tu pourrais mettre ouais, des trucs, mur, ouais. sur les
ben,
murs.
Tout le long mais... du mur, là, tu te fais un beau petit. Il me semble que je verrais ça. Des petites figurines pinées partout là en haut là
mais oui
mais c'est pas ton genre c'est pas ton genre de collectionner
seulement les romans
Chick Repellent
d'ailleurs est-ce que tu collectionnes autre chose que des figurines maintenant ou des BD
côté,
des romans
côté
ouais.
Star Wars ouais. ou en général
les deux ouais.
Ben, à cause que je travaille en effets spéciaux pour le cinéma, c'est comme j'ai toujours eu une passion pour le cinéma. Alors, mm-hmm. c'est sûr que j'ai toutes les. S'il y a une ligne de jouets qui sort, que ce soit Terminator ou Captain
Lord
ou
of the Rings.
Nemo, ou Lord of the Rings ou n'importe quoi dans ce genre-là, qui me rappelle des souvenirs du film, mm-hmm. si le jouet est bien fait, je vais l'acheter pour triper dessus. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a des gens qui me demandent pourquoi tu fais pas des maquettes Lord of the Rings puis Aliens. Puis, oui, ça serait cool, mais là, si quelqu'un connaît un truc de me donner 48 heures dans une journée, là,
ça je pense qu'on a tous besoin de ça. Autant Martin pour jouer à Star Wars Galaxy, moi pour travailler sur mon site web, c'est la même ça. Chose.
Là, ça serait cool sur ce côté-là. Mais j'aime beaucoup il y a le côté des trucs d'on-post dans le temps. Là, mm-hmm. ils ont changé. C'est Rubies, je pense,
c'est
qui ont
maintenant.
Gagné la licence. Mais comme les masques, là, mm-hmm. puis les casques, ça, j'ai toujours trippé sur le côté props aussi. Mm-hmm. Là, les lightsabers, j'ai acheté le premier, mais là, ça coûte tellement cher que
les masters
comme,
réplica,
tu peux pas acheter
ouais.
12 versions de toutes. Mais j'en ai un où ce que j'avais le lightsaber de Luke. Hein, c'est le fun de regarder que, OK, t'as ça. Le dernier que j'ai acheté, je pense, c'était le training remote. Là,
l'espèce de
boule ouais. truc qui était comme un prix quand même raisonnable pour, mm-hmm. pour qu'est-ce que c'était.
C'est raisonnable, mm-hmm. mais comme je disais d'ailleurs dans une émission précédente, j'ai été déçu. Je le trouve trop gros. Moi, dans ma tête, c'est vraiment parti d'une balle de tennis.
Ah, je pense que c'était plus gros que ça. Dans le...
Non, en tant que...
Moi, j'aurais dit une balle de softball, peut-être, là, okay. en grosseur
ben,
réelle.
Ils
là.
Disent qu'ils ont pris le moule de directement des archives. Alors, c'est comme... Moi, ça me semble... Ben, c'est comme une cantaloupe, là, la
ouais,
version
ouais.
qu'ils ont. Mais, c'est un peu léger. Ça, c'est vrai que ça fait un peu cheap. Là. Il y a un peu le remplir pour que, donner l'impression que ça a l'air comme
c'est ça.
Pas pire.
Il
faut
que ça vole.
Mais, ouais.
Tu le remplis des liens puis il vole pour vrai.
J'ai pas essayé ça. Mais c'est ça. Alors ça, les props, les affaires comme ça, j'aime beaucoup. Puis après, c'est ça, les livres. Mais moins les novels, plus les... genre de making of, où ce que tu vois vraiment les dernières scènes, où ce qu'ils montrent comment ce que les blue screens ont été faits, ou qu'est-ce qui était comme
ajouté, Art of Star Wars,
des affaires comme ça.
Ça aide à tes dioramas aussi, j'imagine, oui, ce genre de livre.
Maintenant, beaucoup de références, c'est comme, spécialement le dernier qui a sorti, la seule affaire qui était plate, c'est qu'il est sorti un an après que le film est sorti, je pense. Mais c'est ça, il y a beaucoup des maquettes faites en foam core qu'ils ont utilisées chez ILM pour les vrais décors du plateau. Ils montrent les photos, alors c'est comme, je vais être capable d'utiliser ça pour les maquettes que j'ai pas fait encore, d'être capable de savoir, ah, ça c'est la shape de la pièce. Parce que des fois, quand tu regardes le film ou des trucs, tu vois pas nécessairement les quatre murs, ou tu sais pas, est-ce que la pièce, tu sais, comme...
Es-tu ronde, es-tu ovale?
C'est ça, c'est un peu comme quand j'ai fait le Palpatine's Office. C'est comme, je pensais que j'avais les bonnes dimensions, mais là, une fois construite, je pense qu'il est comme à deux tiers trop petite. Il faudrait qu'elle soit comme un peu plus vaste, grande, puis pour que ça fitte plus avec les proportions. Mais en tout cas, c'est des petits détails.
Quand on est minutieux, tu sais, c'est ça.
Mais parle-nous-en donc tes dioramas, ceux que tu as fait, puis on invite les gens à aller voir sur numniumsuniverse.com.
Ouais.
Et parle-nous-en un peu ton premier, par exemple, jusqu'à maintenant, là, c'est quoi l'évolution que...
La dernière maquette que j'ai fait ou la...
Ben, de la première, la première que tu as fait.
Ben, la première, je pense que c'était Echo Base ou quelque chose.
Tu avais quel âge?
J'avais quel âge? Ça fait 7 ans que j'ai commencé la première maquette.
Okay.
Après ça, ça veut dire que maintenant j'ai 39.
Fait que t'as commencé à 22 ans.
Puis, c'est ça. Mais ça, c'était bien basic. C'était comme on disait, c'était pour faire l'affaire fitter dans l'étagère. Okay. Alors, je savais que j'étais limité à 14 pouces de profond, je sais pas trop quoi. Alors là, j'utilisais comme juste un peu de comment t'appelles ça, la clôture à poule, là,
pour faire
un genre de petite forme de rocheuse. Puis après ça, je mettais des bandages de plâtre, comme quand tu te casses le bras.
Du plâtre de Paris.
Ben oui, c'est du plâtre de Paris, mais enrobé dans un bandage là, où tu fais juste
fromage.
C'est ça, tu le coupes à la section que tu veux, tu le trempes dans l'eau, puis là, tu le mets par-dessus le grillage, et puis là, ça en même pas 5 minutes, ça sèche. Puis là, quand tu le peintures, c'est super cool parce que le plâtre absorbe la peinture. Alors là, ça fait comme toutes des taches,
des
comme
effets,
weathered look là, ou des affaires. Ça, c'est cool pour ça. Alors ça, c'était comme le début. Puis c'est ça. Maintenant, mon trip, c'est vraiment plus où ce que je m'amuse à essayer de recréer. Là, j'ai abandonné le côté... de faire fitter sur une étagère, puis c'est comme si c'est 6 pieds de large. Bon, mais si je vais le faire 6 pieds de large, ça fit pour les figurines. C'est ça, la dernière que j'ai fait, ben, on l'a mis, j'étais chanceux qu'on l'a mis dans la vitrine chez sur Saint-Hubert, où ce que c'était l'arrivée de Palpatine. Puis,
c'est assez impressionnant quand même.
Oui, moi, ça
bon
va être
bon truc d'effet visuel.
Oui, avec le miroir.
Sans blague, je m'en suis même pas rendu compte qu'il y avait un miroir le premier coup. Je regardais par la fenêtre. Puis là, j'ai regardé dans le fond. Je dis, hey, je suis là. Je pensais que c'était vraiment. Tu avais fait deux versions.
Ben, parce que tu le vois pas, le miroir, c'est ça qui est le fun, l'illusion. C'est comme si tu le regardes direct, tu vas le voir, mais c'est comme à cause de la vision périphérique, ça te perd la vue comme du château l'original. Ouais. Tu penses qu'il y en a juste un, puis la face. Quand tu le vois en photo sur le site, c'est cool, mais quand tu le vois en personne, spécialement le soir avec les néons qui éclairent, là, c'est comme
la première fois que je l'ai vu, d'ailleurs, c'était le soir avec un de nos amis sur cette lampe, Michael. Et même lui, il regardait, puis il dit, tabarnouche, il y en a mis du Stormtrooper là-dedans. Puis il fait, quoi qu'il y a deux? Voyons. Ah, il y a un miroir.
Quand tu fais face, tu as de l'impression que c'est comme 15 pieds ou 20 pieds de profond. Puis là, quand tu rentres dans le magasin, là, tu vois le côté de la maquette. Puis tu vois que c'est juste comme 8 pieds ou 9 pieds chose dans le style.
Mais comme tu disais maintenant, au lieu de faire fitter, tu vas plus pour la fidélité avec le film, pour que ça ressemble le plus possible.
Oui.
C'est ça?
Oui.
OK. Parce qu'on remarque aussi sur ton site, tu essaies de comparer, tu essaies de reproduire des scènes. Puis tu mets une image du film, puis comparé avec l'image de ta maquette.
Dans les comparaisons, là, la page comparaison. Ouais. Ça, j'aime beaucoup à regarder, même pour moi-même. Là, je me trouve...
As-tu des cours en photographie ou quelque chose du genre? Parce que je trouve que tes photos,
la façon dont ils sont faits, le focus exactement?
Non. Ben, j'ai pris un cours de photo à l'université, mais pas plus que ce que ça me prenait pour finir mon bac. C'était un cours obligatoire. Mais non, c'est qu'est-ce qui est impressionnant, c'est que c'est quand la caméra, quand tu la mets en macro, puis c'est comme ça joue avec ton le foyer est limité à un pied ou quelque chose, alors ça te met comme un out of focus dans la lointaine, puis c'est comme ça donne l'illusion que les figurines de 4 pouces sont vraiment 6 pieds. C'est vraiment impressionnant que parce qu'on n'est pas habitué à se mettre à ce niveau-là quand on les regarde avec nos yeux, tu sais, alors c'est vraiment impressionnant de voir comment est-ce que ça grandit. Mais je me base sur, disons, les styles dans les revues des angles qu'ils ont utilisés dans le film. Alors là, j'essaie de repositionner les figurines puis essayer de mettre la caméra un peu approximatif dans le même angle. Alors, c'est ça qui nous donne l'illusion, ou dans notre tête, que quand tu regardes la photo, tu dis « Ah, ben ça ressemble au film, c'est à cause de ça. » Alors, ça nous truque. Des fois, il faut que tu regardes, tu fais un double take presque pour dire comme.
Quand tu regardes
non,
vite,
c'est pas le film, c'est des figurines.
Mais c'est ça que je pense qui impressionne beaucoup le monde, c'est qu'ils voient, c'est tellement semblable. Même la scène sur Bespin là, avec Darth Vader, là, comme ça, c'est vraiment. Tes décors, comment tu fais ça? Le fond, le background, on dirait que tu dessines pas ça à la main, c'est photographique.
Oui, ça c'était dessiné à la main, ça. Okay. C'est les textures que. Il y a des textures que je fais en Photoshop ou que j'utilise les livres making of justement ou des fois c'est juste mettre sur pause les disques laser parce que les DVD ils existent pas, on sait bien. je suis capable de faire des sketchs d'un peu comme le pattern de la console ou je sais pas trop quoi. Et puis là en Photoshop, je refais en haute résolution le graphique que j'imprime après sur mon imprimante, puis après ça, j'utilise ça comme pour coller sur background. Puis l'affaire qui est le fun avec ça, c'est qu'à cause qu'une fois que j'ai passé le temps à le faire, bon, bien, au lieu de le laisser pourrir sur mon desktop, bon, bien, j'ajoute les textures sur mon site, alors les gens, ils peuvent aller les chercher, downloader sur leur machine, puis là, tu peux l'imprimer chez toi. Alors, c'est comme même si t'es pas un super débile artiste en Photoshop ou, tu sais, comme super... maniaque en maquette, tu peux quand même acheter un morceau de carton ou quelque chose puis coller l'image dessus, puis ça te donne déjà quelque chose de le fun à mettre les figurines devant si tu veux même juste les mettre sur un.
Puis même s'il y a des parents qui nous écoutent qui ont des enfants, pour faire des sets de jeux, là, je sais que moi quand j'étais jeune, je m'amusais à refaire un peu comme dans les annonces qu'on voyait à TV de G.I. Joe, là, où ce qui s'amusait dans les carrés de sable puis tout ça, c'est parfait pour créer des environnements pour les enfants puis c'est pas trop dur à monter ensemble. Là.
Non, c'est ça. Ben, une des affaires qui m'avait vraiment surpris, parce que j'ai pas d'enfant moi-même, puis que j'avais jamais pensé à ça, mais quand l'année passée, quand on est allé à Indianapolis pour le congrès de épisode 2, j'avais des parents qui venaient me remercier pour mon site parce qu'ils disaient maintenant, avec c'est tous les jeux vidéo qui existent puis les trucs où ce que les enfants sont pognés devant la télé tout seuls ou je sais pas trop quoi, que c'est sûr que les parents, les pères ou whatever, ils achetaient les jouets pour leurs enfants, puis maintenant ils montraient à leurs enfants les maquettes, genre l'enfant il voulait ça pour justement avoir un playset, quelque chose pour jouer avec, puis là ça donnait une activité que le père pouvait construire avec son fils, t'sais. Alors là ils passaient du temps ensemble un après-midi au lieu que le petit cul joue au PlayStation, je sais pas trop quoi. Alors c'est quoi les gens, c'est ça. J'avais même pas pensé à ce côté-là, tu sais, j'étais là comme wow, c'est cool, tu sais, comme en pensant que c'est vrai que ça donne une activité comme tu sais, comme où ce que l'enfant peut
participer
à peinturer ou je sais pas trop quoi, s'il construit une maison Mos Eisley ou je sais pas quoi, puis que le père il peut faire les trucs comme couper le carton, des affaires trop dangereuses ou ce que tu peux faire mal.
Parle-nous-en donc, tu as parlé de Star Wars Celebration 2, parle-nous-en donc de ton expérience là-bas. Comment c'est arrivé? Comment tu as été choisi pour aller là-bas, etc.?
Comment est-ce que j'ai été choisi, M. Sartre, mon Dieu? Ma mémoire, là, avec l'âge, là, c'est difficile de souvenir des fois. J'ai du trouble à me souvenir que j'ai fait hier soir. Je sais que j'avais envoyé un email à Rebel Scum, à Philip Wise, qui m'hébergeait dans le temps. Puis j'avais dit, je savais que lui, il dealait quelque chose avec Lucasfilm pour pour son côté. Mm-hmm. Puis là, j'ai dit que ça serait le fun peut-être de faire un genre d'atelier de maquette ou quelque mm-hmm. chose là-bas pour que les fans, ils pourraient venir, tu sais, comme triper et mm-hmm. tout ça. Puis lui a donné la proposition à Lucasfilm, puis eux, ils ont trippé tout de suite. Puis là, après ça, ils m'ont contacté comme une semaine après. Sauf que l'idée originale de qu'est-ce qu'eux, ils voulaient faire, c'est qu'ils voulaient que me mettre comme derrière une table où ce que moi, je ferais une maquette, okay. puis que les gens, ils passeraient comme si je serais dans un zoo, là, ou je sais pas, puis qu'ils me regarderaient en train de construire.
Ben, je sais pas si tu as eu la chance d'ailleurs de passer dans la salle des dealers. Il y avait un gars d'Hasbro qui était là qui faisait
oui,
la
oui,
sculpture
oui, oui,
de.
Qui faisait le Ayla, je pense, c'est ça?
C'est ça, sur la.
Qui travaillait dessus, oui, oui.
Qui travaillait sur ses figurines avec sa Kenner Wax.
Oui, j'aurais été trop stressé à faire ça, je pense. Mais moi, je trouvais ça, cette idée-là, super plate parce que c'est comme il n'y a pas d'interactivité, puis mm-hmm. je sais pas quoi. Alors moi, j'ai dit que ce serait plus le fun si on faisait comme dans les camps d'été ou je sais pas trop quoi, où est-ce que on ramasse du matériel ou whatever, puis que les gens ils viendraient participer à construire quelque chose, puis après ça l'idée m'est venue que on peut faire quelque chose de facile comme un Mos Eisley, ou ce que qu'est-ce qui est cool dans les premiers films de Star Wars, c'était le look des bâtisses, c'est mm-hmm. tout crapuilleux puis tout ça, puis
c'est pas comme, trop compliqué,
c'est ça. Alors même si t'es pas parfait, bon, ça fit plus dans le look du film, alors mm-hmm. t'étais pas obligé d'être tout perfectionniste. Mm-hmm. Puis on était chanceux qu'on a eu des commanditaires, ils nous ont donné comme 4 000 $ de matériel. Alors les gens, ils rentraient dans la pièce, puis on leur donnait comme une feuille de foam core, le plâtre, la peinture, tout le kit, puis les gens ils trippaient à l'os là. Apparemment on nous a dit que on était la seule pièces que les gens étaient pas obligés de payer. Puis les gens, ils capotaient, tu sais, parce que si t'allais, là, tu payais comme genre ton 40$ pour avoir ton ticket pour rentrer au congrès, mm-hmm. là, si tu voulais l'autographe de Princesse Leia, tu payais un autre 60$. Là, si tu voulais ton George Sakul, tu payais un autre 20$. Après ça, puis là, t'allais dans une autre pièce, tu payais un autre 30$. Tu sais, alors c'était tout le temps payer. Alors là, les gens, ils rentraient, puis là, ils disaient combien qu'il faut payer pour construire le truc. Puis on disait non, c'est gratuit. Puis les gens, ils en revenaient pas. Alors, qu'est-ce qui était le fun aussi, c'est que on donnait le matériel, les gens ils construisaient une maison de Mos Eisley, on leur donnait aucun critère, sauf genre ok, il faut que ça soit un pied par un pied, mais si tu veux mettre deux portes, trois portes, une fenêtre, c'est toi qui décides. Alors c'est là où ce que l'imagination du monde rentrait, qui était le fun de voir après ça comment est-ce que tout le monde, il y a personne qui fait une maison pareille, tu sais. Mm-hmm. Puis après ça, le dimanche qui était la dernière journée du congrès, on a installé les maisons de tout le monde sur quatre morceaux de 4 par 8 là, de plywood. Puis on avait amené des figurines, alors on a populé ça, puis on a eu un genre de petit mini exposition
assez débile comme
ça pendant 3 heures ou quelque chose. Puis après ça, les gens qui avaient construit leur maison pouvaient la ramener comme souvenir. Mm-hmm. Alors c'est comme dans leur maison, ils peuvent regarder la maison puis dire ah, oh, c'est ça qu'on a fait l'année passée, t'sais.
Ils regardent la photo sur internet, ça là c'est ma maison.
Ouais,
c'est
ça, ça ouais.
Vois-tu
ouais.
Le petit bout de brun ouais. qui dépasse en arrière.
Mais en tout cas, moi j'étais vraiment là, ça m'a vraiment épaté là de voir qu'est-ce que les gens y ont fait comme en une journée et demie là, c'est comme tu regardes les photos sur le site là, dans section Celebration 2, puis c'est comme t'es là comme wow, parce que ça a commencé vraiment un peu désastre là, ou ce que mm-hmm.
c'était drôle à voir.
la première journée, à cause que tout le monde voulait les autographes de Carrie Fisher, comme que tu dis, c'est mm-hmm. les gens attendaient 6 heures en ligne.
Puis deux, était même pas là,
était
en
même
plus.
Pas là, ouais. Puis là, tout le monde voulait le George Sakul, mm-hmm. puis tout le monde voulait voir le preview de épisode 2. Alors là, c'est sûr que les gens, quand tu rentrais dans le congrès, la première chose que tu allais, c'est faire ton line-up pour la figurine. Après ça, tu allais pour le line-up pour voir le preview de l'épisode 2. Alors là, je pense que le vendredi, ça avait commencé à midi, puis ça fermait à 6 heures. Puis là, il était rendu 4 heures, puis il n'y avait pas une personne qui commençait à faire une maison. Puis là, on s'était dit, oh, ça va être désastre total, et on va avoir deux buildings, tu sais, pour le dimanche, tu sais, la ville, ça va être tellement laid. Puis là, après ça, à 4h30, le monde commençait à rentrer, une personne, deux personnes. Finalement, à 6 heures, la salle était pactée, puis c'est comme là, ils nous ont donné la permission de rester ouvert jusqu'à 7h30. Alors, les gens, ils commençaient à vraiment rentrer. Il y a Steve Sansweet qui est venu faire un tour, puis il voyait comme tout le monde en train de construire, puis il était comme... Il donnait les tout là. Il était vraiment excité pour la façon que les fans y réagissaient, puis c'était la folie totale, où ce que c'est comme on courait comme des vrais malades, mais c'était vraiment excitant. Si jamais ils me demandent pour le faire.
Le 3, Celebration 3.
En 2005, là, c'est sûr que si je suis libre, j'irai faire ça.
OK. Bon, on va faire une pause musicale, puis on va revenir avec encore d'autres questions. Là. On va concocter ça un peu, et puis on revient avec Frank Diorio et le reste de la gang à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars.
Doesn't mean much.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars.
Et quelle musique de circonstance d'ailleurs, car oui. Nous avons avec nous l'invité, nul autre que le webmaster de Nyum Nyum's Universe.
Exactement.
Rebonjour Frank.
Hello.
Bon, pour ceux qui se demanderaient justement, on parlait de ça pendant la pause, d'où vient le nom de ton site web?
Niab Niab, oui. Niab Niab's Universe, c'est basé sur Wicket, le petit Ewok, que je sais qu'il y a tellement de monde qui adore les Ewoks là-bas. moi, je trouvais ça toujours drôle la façon que Wicket, quand là, il rencontre la princesse Leia, puis avec sa petite épée, là, puis là, il fait Niab Niab, Niab Niab, ou je sais pas quoi. Ouais. Puis là, j'essayais toujours de savoir comment t'appelles ça, ou je sais pas trop quoi, c'est quoi exactement qu'il disait. Alors, moi, je pensais que c'était Niab, Niab Niab. Alors, j'ai écrit ça N-I-U-B. Là, j'ai su après que c'était Y-U-B. Mm-hmm. Alors, j'ai fait une gaffe sur ce côté-là, mais ça, c'est l'origine
du. Tu peux toujours réacheter le nouveau nom de domaine.
Ouais,
aussi.
C'est ça. Ben là, les gens, ils vont se perdre, je pense. C'est, je ne suis pas le pilote, le copilote de.
Lando.
De Lando, comme les gens, ils pensent. Ça, c'est Niab Niab. Mais c'est ça. Alors, ça. Puis, c'est pas Niab Niab non plus, c'est Niab Niab Universe.
Point com.
C'est simple quand même, je sais pas. C'est... Parce que je t'ai dit avec
tête,
mon nom.
Peut-être parce que t'aimes les Ewoks aussi, je sais pas.
Ben, c'est pas... J'ai rien contre les Ewoks, mais c'est parce que j'ai un nom qui est quand même assez dur à prononcer, là, fait que... C'est ça, Will Mutaise, c'est pas évident à écrire ni à prononcer.
Bon, et t'avais des questions, Sébastien?
Exactement, ouais. On a reçu plusieurs questions de la part de fans. D'ailleurs, il y a un de tes fans, c'est un groupie, je pense, dans le fond, là. Alors, c'est Chris de Belgique qui nous demande quand est-ce que tu prévois faire ton prochain diorama.
Là, j'essaie de régler mes problèmes techniques pour mon site à cause que j'ai acheté une nouvelle machine puis tout ça. J'étais en train de copier du vieux au nouveau. Mm-hmm. Mais ma prochaine maquette, ça va probablement être la maquette que j'ai commencé avant Palpatine. Mm-hmm. Puis là, j'ai comme switché à Palpatine quand je savais que le château allait sortir plus de bonne heure que prévu. Mais j'avais commencé la salle de conférence du Death Star dans New Hope, où
ce
que t'as Darth Vader avec Tarkin puis toutes les autres personnes.
Cool.
Puis les consoles, je vais faire des decals Photoshop pour les gens qui veulent faire ça facile, mais je vais aussi faire un genre en relief 3D où ce que je vais mettre des petites lumières de Noël. Alors ça va tout être éclairé avec les trucs. Puis j'ai déjà fini, ben j'avais fait le template comme de une des sections, puis la pièce à cause qui est ronde, c'est juste la section répétée genre 30 mm-hmm. fois là, ou quelque chose, okay. Puis avec la grosse table au centre,
avec
puis
les chaises. Ouais.
Alors ça, je devrais probablement être ma prochaine. Puis après ça...
T'en as quelques-unes qui sont en coming soon.
Je sais que, ben j'ai un top 10 list de Most Wanted aussi, okay. Que les gens ils peuvent aller chercher. Mais je pense que la prochaine après ça, ça sera probablement... pour aller avec les nouveaux cinémascenes qui ont sorti là, avec Count Dooku là, le War Room Geonosis War Room. Alors ça sera probablement cette pièce là que je ferai. Puis les textures des murs, c'est identique un peu à où ce que Yoda se bataille. Alors ouais. Peut-être ça pourrait être comme deux dioramas qui va se faire assez rapidement. Mm-hmm. Puis après ça, probablement je vais aller où ce que je ferai un sondage sur le site, dire au monde dites-moi c'est quoi vous voulez voir, puis on va créer ça.
Un diorama Star Tours, peut-être?
Est-ce que tu modifies les figurines? Est-ce que tu modifies les figurines?
Non, ben, les seules figurines que j'ai vraiment modifiées, c'était comme les Jedi pour s'asseoir là,
okay, dans le Council.
Jedi okay. Council, parce que ben là, ils en ont fait des cinema scenes où ils sont assis dans les three packs. Mm-hmm. Sauf que je l'ai vu finalement récemment, juste la semaine passée, puis j'étais un peu, je peux dire que je suis très déçu à cause que les chaises que Hasbro ils ont construites sont comme même la moitié plus petites qu'ils sont supposés d'être. T'sais, c'est comme, je sais pas s'ils ont shrinké d'une façon de quelconque, là, mais c'est ça. J'aurais aimé que ça serait one-to-one scale, mais en tout cas.
Il ne suffit pas
à l'échelle. Là, j'ai oublié, tu vois, avec mon ange, là, je commence à oublier c'est quoi qu'on parlait.
Les modifications
de figurines, ouais, c'est ça. Ouais. À cause que j'aime tellement les figurines en cloth, là, les, mm-hmm. en robe, comme on sait que les gens y savent, qui n'est vraiment pas le cas, j'ai tout resculpté avec le Sculpey pour donner l'apparence que ça allait par-dessus les chaises que j'avais modifiées moi-même. Mais les customs, je suis pas vraiment fort là-dedans parce que je trouve ça trop difficile. Les maquettes, je trouve ça facile à cause que c'est grand. Les costumes, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça parce que c'est très minutieux. Puis là, il faut que tu sois très précis. Puis à chaque fois que tu essaies de peinturer quelque chose, ça fait moins beau que, tu sais, les trucs. Ouais, quand tu fais des head swaps, ça, c'est facile. Mais c'est ça. Puis aussi, c'est comme, j'ai l'impression que quand, si j'en fais un costume, puis là, je le mélange avec les vraies figurines de Hasbro, des fois, ça mélange pas tellement bien, puis là, ils vont en faire une... J'aime mieux attendre que Hasbro vont sortir la vraie version, puis après ça, ça me donne l'excuse de faire le diorama de... pour ce personnage-là, mm-hmm. tu sais, dans ce style-là.
Ok, c'est bon.
C'est ça. Cool. Mais Star Tours, il y a des possibilités, mais...
Nice.
Ouais, peut-être avant 2018.
Disons. None too slim. Combien de temps que ça te prend entre le temps où tu achètes tes figurines puis la fin du diorama en tant que tel?
Ok, ça dépend aussi de la maquette que je suis en train de faire en ce moment. Si la maquette est vraiment élaborée comme, parce que en plus, à cause que c'est mon passe-temps, je fais ça seulement comme les dimanches ou des fois le samedi aussi, mais c'est comme c'est très comme, tu sais,
t'as pas un grand temps
à placer dedans là. J'aimerais ça faire ça à chaque jour, mais je suis pas capable à cause du travail. Mais c'est ça, c'est si disons que Hasbro sort toutes les figurines qui sont dans une scène, bon ben là je vais avoir le goût de commencer cette scène là puis si c'est une scène facile comme le Trash Compactor, mm-hmm. quand il avait sorti les deux two-packs là, avec mm-hmm. le nouveau Princess Leia et tout ça, ça m'avait pris comme deux fins de semaine. Alors c'est comme assez rapide parce que tu mm-hmm. fais juste couper ton affaire, tu le peintures, puis le temps de prendre les photos aussi pour les making of, pour que tu es capable de suivre les étapes pour le construire chez toi. Tu vois, comme si on prend genre le Millennium Falcon ou le Palpatine, l'arrivée de Palpatine, comme il y a dans la fenêtre de Legend, ça l'a pris comme 7 mois à faire. Alors c'est comme, il y a des années, je fais comme 2 maquettes par année, alors une chance que je fais des update de making of, parce que sinon il y aurait un update par année sur le site, ça serait un peu triste. Mais c'est ça, dépendant de le nombre de détails puis la grandeur puis tout ça, ça peut aller comme à 7 mois de temps là.
Ok. Est-ce que tu achètes toujours tes figurines au prix fort ou des fois tu vas les acheter d'occasion?
L'occasion comme en vente?
Ben en vente ou par exemple pour les Stormtroopers que tu as mis dans l'arrivée de l'Empereur,
okay.
tu as pu les acheter comme séparément ou...
Ok. Toutes mes jouets, j'achète en magasin. J'allais avant chez les Toys R Us puis tout ça comme il y a 3-4 ans. Maintenant, il n'y a plus jamais rien là-bas. Mm-hmm. Alors, je suis chanceux que j'ai découvert Steve puis José, mm-hmm. José chez Legends. Alors, j'achète toutes mes jouets là-bas maintenant.
Mais tu as un partenariat aussi avec eux autres?
Ben c'est comme on a un deal où ce qu'ils me réservent les figurines, où ce que je suis pas obligé de courir partout pour uh-huh. essayer de trouver qu'il manque cette figurine là dans le case breakdown uh-huh. ou les affaires comme ça. Pour comme les Stormtroopers, les 120 Stormtroopers que j'ai dans les trucs, j'étais chanceux où ce que une connexion, un fan de mon site vendait sa collection en Californie puis il me les a vendus à 1 pièce chaque. Alors j'étais, t'sais, ça m'a coûté quand même 150 US, mais c'est comme comparé à 10$ la figurine.
C'est moins cher que 1200$ canadien.
C'est bien dit. Alors, c'est pour ça que j'ai pris avantage de ça. Sinon, je pense que j'aurais jamais mis 150 figurines là-dedans. Mm-hmm. Mais
c'est ça. Jusqu'à quel point tu serais prêt à mettre, s'il te manque une pièce, pour acheter cette pièce-là?
Je suis pas... tu sais, c'est comme... Ça me dérange pas de payer genre... 20$ là, ou quelque chose pour une figurine, mais j'irai pas payer, tu sais, comme dans les encans là, ou quelque chose, puis payer 150$ pour une figurine. Si je vais attendre qu'elle sorte plus tard ou je vais m'en passer là, si, mm-hmm. si ça vient le cas pour ça. Là, mais non, c'est comme d'habitude, c'est comme j'essaie de rester ça au prix normal. Je suis pas okay. obsédé au point où il faut que j'aille tout pour avoir des prix ridicules.
La plupart des objets, des décors, tu les achètes ou c'est des objets que tu as toi-même recyclés?
Comme les props puis les mm-hmm. trucs comme ça. Ça dépend. Il y a une affaire que si tu commences à faire des dioramas, quand tu te promènes dans les Walmart ou dans les dollar store à 1$ ou n'importe quoi, c'est comme il faut que tu commences à penser, à regarder avec tes yeux les objets de vie normale en scale pour les figurines. Okay. Alors, des fois, tu vas avoir un objet que tu utilises en vie normale, qui a comme pas rapport, puis tu te dis comme, ah, oh, ça marcherait super bien pour, tu sais, comme un background pour le tel paysage ou quelque chose comme ça.
Blender, c'est cuisine ça. De Beyrouth sur ta
tête. Quelque chose, ouais, tu sais jamais, tu sais. Mais, la plupart des décors, c'est comme, si je veux que c'est quelque chose qui comme ressemble spécifiquement à une bâtisse ou un truc, bon, mais je vais prendre les photos de référence des livres comme on passait tantôt, puis je vais soit les sculpter en Super Sculpey, que je sais pas si les gens sont familiers avec ça, c'est comme du fimo ou de la plastine, sauf que tu mets ça dans le fourneau ou avec un séchoir à cheveux, puis avec la chaleur, ça durcit. Mm-hmm. Là, tu peux le peinturer après. Puis ça, j'écris de mes mains propres là, quand c'est des objets que je peux pas trouver. Là.
OK. Ben, c'est ça d'ailleurs, là, tu nous parlais un peu de tes des matériaux que tu utilises. En moyenne, un diorama, ça peut coûter combien? Puis c'est quoi les matériaux qu'on va essayer d'aller chercher? On parlait un peu tout à l'heure de foam core.
Mm-hmm.
Là, tu nous parlais de Super Sculpey, c'est ça?
Oui, oui.
Fimo, un peu, là, pour les
foam
gens.
Foam core, c'est comme... comment est-ce que je peux dire?
Essentiel.
Le l'essentiel, oui. C'est vraiment la meilleure chose que les architectes, ça fait longtemps qu'ils utilisent ça pour faire les maquettes, leur building. C'est pas cher, ça se trouve partout dans les homards de serre ou dans les genres de
bureaux en gros.
Ça se vend à n'importe quelle grandeur, couleur. Et l'affaire qui est le fun avec ça, c'est que ça se coupe facilement avec un exacto. T'es pas obligé, comme du bois, utiliser une scie, puis le sabler, puis toutes les affaires. C'est sûr que ça dure moins longtemps si t'échappes de l'eau dessus, quelque chose comme ça. Là. Mais c'est facile à manipuler. Puis après ça, si disons que c'est ça, si tu fais genre un Tatooine, là, tu peux recouvrir ton foam core avec du plâtre. Ça te donne un look texturé stucco. Ou tu peux utiliser sur du foam core list, tu peux coller des stickers dessus, imprimer ton ordinateur pour donner un look plus slick. Si tu t'en vas dans les autres matériaux comme le Sculpey, bon, mais ça c'est un peu plus cher à cause de ça se vend par bloc. Je pense que c'est rendu à 15$ ou 20$ ou quelque chose. Il y a des trucs que quelqu'un m'a montré pour que j'ai hâte d'essayer une fois, mais ça c'est une autre maquette qui serait tellement grosse là, pour faire le Geonosis Arena là, où ce que c'est ça se vend Canadian Tire là, c'est comme la mousse là isolée là, ça ressemble à du
c'est vrai.
Puis là c'est comme tu sors ça fait comme un genre de psh, comme la crème à raser, puis après ça tu prends un petit couteau puis là tu coupes dedans puis ça te fait comme la même texture, comme les rochers.
C'est d'ailleurs ça que j'ai utilisé pour faire une maquette d'un château du Moyen-Orient en secondaire 4.
OK. Mais ça fonctionne super,
c'est
génial.
C'est un très bon matériel, puis ça coûte pas trop cher. Juste avec une canne, on peut faire comme un bon bloc là, à sculpter après.
C'est ça. Mais les prix varient dépendant de ce que tu utilises. T'sais, si tu fais quelque chose bien basic, ça peut te coûter 20$ peut-être. C'est pour un genre de truc avec du plâtre, c'est pas cher, puis du foam core. Si tu t'en vas dans des dioramas avec des stickers que tu downloads de mon site, bon, mais c'est l'encre de cartouche que tu achètes, puis le papier, tu sais, puis après ça, c'est comme, même si tu regardes, c'est plus le temps que ça prend pour le faire qui l'ont, tu sais, comme la maquette, si tu regardes l'arrivée de Palpatine, juste le matériel là-dedans en termes de foam core et tout ça, c'est peut-être, il n'y a pas plus que 150$ de matériaux, tu sais, à part des coûts de toutes les figurines, là, mais c'est pas quelque chose que ça te prend 1000$ là, pour construire quelque chose qui a de l'air
assez réaliste et fun à jouer avec.
Ouais.
Quand même pas trop dur à entreposer non plus. Là.
Non, c'est ça.
Quand tu as une grosse vitrine pour l'entreposer, ça va bien.
Ouais, je pense pas que j'aurais jamais construit l'arrivée de Palpatine si Legends m'avait pas dit comme ah, ça serait le fun de le mettre dans la vitrine, parce que c'est comme. La journée que je l'ai amené là-bas, j'étais tellement content parce que je pouvais finalement marcher dans ma cave.
Tu t'en débarrassais, entre guillemets.
C'était rendu vraiment ridicule. Là. Il n'y avait plus de place. Là. Mais c'est ça. Là, il faut que tu aies la chance ou la place pour le mettre. Là. Puis c'est comme, je suis chanceux que dans mon appartement, j'ai une pièce dans la cave où c'est comme avec toutes les étagères et tout ça, que je suis capable de mettre toutes mes maquettes là-dedans, parce que sinon, ça prendrait... overtake toute la maison.
Ouais, c'est ça.
Un peu malade.
Là, les gens qui veulent pas utiliser les petits les petits socles pour faire tenir leurs figurines.
Ok, oui, oui, oui.
Y a-tu des trucs pour ça?
Ben moi j'ai trouvé un truc, oui, comme qu'on a utilisé pour la vitrine dans Legends pour pas que ça tombe, puis même chez nous pour j'ai utilisé la même affaire pour le Naboo Core. C'est que si t'as si t'achètes un fusil à colle, un hot glue gun, tu mets juste un petit squeeze là sur le bas de la patte là, c'est comme même pas la grosseur d'un 5 cents ou quelque chose, hein. Juste une petite affaire là, comme un poids là. Puis après ça, c'est encore chaud là, tu mets ta figurine sur la surface où ce que tu le fais, puis là ça fait un genre de squish, ça s'écrase, puis ça fait comme un footprint super comme contouré pour la figurine, puis la figurine elle tombera jamais. Okay. Puis l'affaire qui est le fun avec ça, c'est que la colle elle va sécher à l'intérieur de même pas 5 secondes. Puis si tu veux enlever la colle, ça s'enlève en un morceau, puis ça arrache pas la peinture de la figurine ou ça détruit pas la figurine. Alors t'es pas pogné avec ce mouton là de colle tout
c'est
le
ça,
temps
qui
ça va coller les trucs. Moi j'aime mieux cette technique là que les stands, je suis pas fort sur quand tu vois une super belle maquette que les gens y ont construit, puis après ça toutes les figurines y ont des gros stands ronds sur tous leurs pieds qui cassent tout le look de, mm-hmm. du truc. C'est comme...
Ah, ils ont fait l'étude du plancher de la Death Star. C'est un plancher du disco en plexiglas. Tu mets des petites lumières qui flashent en dessous. C'est ça. Peel off the paper before to fix to the floor. Alors, on demande ici, c'est quand que tu penses faire un chat sur ton site web?
Un chat sur mon site web. Je voulais, ben originalement dans ma tête, je me disais que je voulais faire ça comme une fois à chaque mois, mais là c'est comme il y a eu plein de trucs qui sont passés récemment, peut-être ça.
Lamont Murphy.
Je vais essayer probablement ce que j'aime ça parler au monde, peut-être ça c'est tout le temps le fun. Là on est rendu quoi? On est en mois d'octobre là?
Déjà.
So, ça, je pense que j'essaierai de me patenter quelque chose soit à la fin d'octobre ou début. Novembre, mais je vais essayer de garder ça où ce que faire un genre de cédule un peu comme vous là, où ce que c'est comme la première semaine de chaque mois mm-hmm. quelque chose, c'est sûr que je vais être à telle heure dans le chat puis on fait répondre les questions pour
pendant
ben, peut-être
quand même
chose.
Il va pouvoir revenir à l'émission
jamais oui
puis avec un serveur qui fonctionne, poser les questions en direct sur le chat et
oui,
tu réponds
ça bien ça oui.
Star Wars en direct édition spéciale
Live,
Niob Niob's Universe. Alors, tantôt tu parlais un peu du plâtre,
oui.
qui c'est, dans le fond c'est comme du coton, coton fromage avec du plâtre de Paris,
oui.
comme les docteurs vont prendre pour faire les plâtres sur les bras.
Mm-hmm.
Ça, tu disais d'ailleurs, ça prend de la peinture parce que ça va en absorber beaucoup.
Parce que sinon ça reste blanc.
C'est ça, dépendant de la peinture que tu utilises. Là.
Oui.
Y a-t-il un primer qu'on peut mettre dessus?
Non, ben si tu construis une maison Tatooine ou truc de Jabba ou n'importe quoi qui est idéal pour cette texture-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu prends la peinture latex,
mm-hmm.
puis tu ajoutes genre 4 fois d'eau pour ta peinture. Alors tu le rends vraiment comme de la soupe là, tu veux pas que ça soit comme ou ce que c'est ça, tu veux pas que ta peinture se peinture comme sur ton mur. Qu'est-ce que ça fait, c'est que quand tu ton pinceau, tu le splashes genre sur le plâtre, c'est tellement liquide que ça va tout s'absorber comme si tu mettais un Scott Towel sur ton comptoir mouillé ou quelque chose comme ça. Puis là qu'est-ce qui arrive, c'est que à cause c'est tellement liquide, disons que ça met tu mets ça une couleur genre jaunâtre brune là, comme dans les photos. Là, quand tu mets un deuxième splash, bon, mais ça va. Où est-ce que le plâtre est nu, bon, mais ça va rester cette couleur-là. Puis là, où est-ce que la peinture touche la peinture qu'il y avait déjà, ça va ajouter un shade
de plus
foncé. Mm-hmm. Alors, ça va. Là, quand tu continues comme ça, ça va donner comme 4-5 couleurs différentes de brun, puis ça va donner le look tout rouillé, usagé que tu trouves sur la planète. Alors, c'est vraiment identique.
Le gars qui veut se casser la tête pourrait aller chez Renault Dépôt, s'acheter un sac de sable, mettre de la colle sur son plâtre, puis sprinkler le sable sur ses sur ses petites maisons.
Pour le truc? Ah, ça, ouais. Ça, mais du sable, je sais pas si c'est difficile à trouver, du sable ou non.
Ah non, chez Renault Dépôt, ouais, ça s'achète facilement.
Parce que... Ah, peut-être.
tu fais pas attention à ton grain de sable, il va être trop petit, trop gros par rapport aux figurines, fait que ça va être comme s'il se promenait dans le gravier plutôt que dans le sable.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Possible.
Je sais que pour le Celebration, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé du brin de scie. Parce que c'est la même couleur. Ben, si tu t'achètes une feuille de presswood ou quelque chose, puis tu fais juste couper dedans, tu sais, comme juste pour avoir du brin de scie, ou tu peux même aller, je pense, acheter ça en sac, ou tu vas, tu demandes au bonhomme, au lieu de les jeter à la poubelle, je peux-tu avoir votre brin de scie, ou je sais pas quoi. Puis c'est très léger, puis là, c'est comme tu dis, tu peux même, sur ta tablette, tu peux peinturer une couche de colle blanche, là, liquide, là.
Comme, la colle de page, blanche.
La colle, blanche, là. Puis après ça, tu mets ton brin de scie dessus, puis ça, ça va te faire ta base, que quand les figurines sont placées dessus, ça fait comme du sable au lieu de... Okay. Parce que du vrai sable, ça risque aussi de...
Ben, c'est quand la colle est sèche, sablé, si tu là, bouges, ça va... Ça, partout, là, ça ouais, peut tomber partout. D'ailleurs, autre matériel intéressant à utiliser, quel genre de matériel tu utiliserais pour faire de la neige?
La neige, crois-le ou non, là, ça fait 5 ans ou 4 ans que j'ai fait mon hot, puis j'ai utilisé du sunlight.
du savon à vaisselle.
Je sais pas si c'est du sunlight ou du Tide, là,
mais je m'attendais pas à ça.
Mais c'est comme du savon lavage, là, de la poudre blanche. Mm-hmm. Puis je sais que dans les films, ils utilisent, je pense, c'est du baking soda ou du baby powder, là, la poudre à bébé. Mais j'ai mis du savon à vaisselle, puis c'est comme t'es capable de le mettre, tu sais, comme l'éparpiller, donner un peu des looks embossés un peu. Puis les figurines qui sont dedans, il y en a qui ont tombé avec le temps, la face dans la neige, puis toutes les affaires. Puis après 4 ans, le savon a pas... Mais il n'a pas abîmé le plastique, tu sais, c'est pas comme... C'est, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être peur que ça va abîmer leur figurine.
L'huile,
mais
savon,
les pieds, c'est comme... Y a, tu sais, ça, des fois, ça devient motonneux à cause de l'humidité dans la pièce ou quelque chose. Mais c'est comme ça s'enlève de la figurine super bien. Puis ça a le même look que tu vois...
Pis si tu veux faire une tempête de neige, t'as juste à l'arroser, ça fait de la mousse partout. Fait que là, ils sont perdus dans le bizarre.
Ça serait un gros party.
Wow, wow. Exact. Alors, expérience Star Wars Celebration 2, tu nous en as parlé tout à l'heure. Moi, j'étais là. Je passais souvent devant la salle, justement, des dioramas. J'ai jamais eu la chance d'y aller. Pas parce que ça coûtait rien. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait rien qui m'a... Il y a rien que j'ai participé qui m'a coûté quelque chose. Sauf du temps.
Bien, le temps, oui. Le temps, c'était mal organisé un peu.
Ça, c'est le gros problème qu'il y a eu à la Star Wars Celebration 2. C'était le temps. On manquait de temps. Fallait faire les fils énormément.
Puis... Fallait que tu décides. Il y avait tellement de choses cool à voir il fallait que tu décides, bon, mais je vais-tu faire ça, ouais.
Qu'est-ce que j'ai réussi à faire, qu'est-ce que je décide de faire? Finalement, j'ai pas eu le temps d'arrêter. Je suis passé très rapidement dans la pièce à un moment donné. Ça, je pensais que vous aviez utilisé du papier journal. Il me semblait que j'avais vu du papier journal.
Oui, à un certain point, oui. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que...
Manquait de plâtre.
C'est ça. La première journée, il y avait eu tellement de monde qui sont venus plus qu'on pensait qu'on a manqué de plâtre. Il en restait plus. Puis là, on a appelé des boutiques à Indianapolis, puis il n'y avait aucune boutique qui avait des bandages de plâtre, je ne sais pas trop quoi. Alors là, on a fait venir, on a dit au monde partout dans les équipes de la sécurité, puis tout ça, on a dit, amenez-nous tous vos journaux, on a besoin de quelque chose.
Ça, faites un raid sur les planchers d'hôtel à 4h du matin, ramasse les journaux de tout le monde.
C'est presque ça qu'on a fait, vraiment. Hein. Puis là, on déchirait les journaux, puis à cause qu'on mettait le plâtre par-dessus, ça ne dérangeait pas, c'était juste une base, parce que si tu mets du plâtre de Paris directement sur ton foam core, le foam core il est tellement lisse que ça va glisser comme la glace sur, tu sais, comme alors c'est comme t'as besoin de mettre un genre de papier, soit le bandage ou du papier mâché sur ta forme pour que quand tu mets ton plâtre ça va vraiment coller.
Puis pourquoi pas juste le faire en papier mâché à ce moment-là?
Tu peux, mais ça donne pas la même genre de texture, mais c'est ça peut se faire. Il y a des gens que...
C'est plus dur à camoufler, moins solide aussi.
Ben, le plâtre, ça reste où ça reste fragile aussi à cause que c'est comme juste assez mince là, que tu mets. Si tu l'échappes, ça va comme craquer. Mais non, je pense que c'est juste une côté. Il y a du monde qui en avait fait comme juste avec le papier. À cause qu'il n'y avait pas le temps de mettre les couches de plâtre, toutes les affaires comme ça. Mais ça, c'est deux techniques différentes qui fonctionnent aussi l'une que l'autre.
L'une que l'autre, c'est ça.
C'est ça qui est le fun en maquette. C'est comme tu peux aller avec le matériel que tu as chez toi, où tu n'es pas obligé de vraiment suivre les règlements de tout le monde. Tu utilises, tu peux te baser sur quelque chose, genre comme sur mon site ou sur les autres sites qui existent pour t'inspirer. Puis après ça, tu utilises ton imagination à toi pour aller, c'est comme créer quelque chose de trippant. T'sais.
D'accord. Deux dernières questions. Première question, on veut faire un dôme pour un bâtiment.
Un dôme?
Qu'est-ce qu'on prend comme pour
un
faire
dôme? Un dôme comme Mos Eisley?
Oui.
OK. Nous, on utilisait... Il y a différents trucs que tu peux faire. Soit que tu t'achètes genre dans des matériaux d'art, comme l'oiseau bleu ou quelque chose comme ça, tu peux t'acheter des boules de styrofoam à différentes grandeurs. Ça coûte 1,29 ou quelque chose comme ça. Puis là, tu le coupes en deux puis ça te donne ton dôme. Ou tu peux aller au Dollarama. Puis, moi, c'est ça que j'avais utilisé. J'avais acheté des passoires, je pense que ça s'appelle, pour quand tu...
Pour le spaghetti.
Strainer, là, pour ton spaghetti ou je sais pas trop quoi. Puis, ça se vend à 1$. Puis, c'est comme, il y a différentes grosseurs. Puis là, c'est comme, tu fais juste couper la mèche de plastique qui est comme dans la forme d'une demi-boule. Mm-hmm. Puis après ça, le plastique, tu peux le garder peut-être pour faire un décor en quelque chose d'autre plus tard dans le futur. Mais ça, avec le plâtre par-dessus, ça reste assez solide pour... garder ta shape. Là.
Une idée qu'on parlait un petit peu plus tôt, c'est la War Room de Geonosis.
Oui.
Hologramme de la Death Star. Moi, j'ai deux idées de comment la faire.
Okay.
T'as-tu une idée de comment tu penses que tu pourrais faire ça?
Moi, j'y ai pas pensé. Dis-moi les tiennes, puis je vais voir si sont assez bonnes à voler. Ou...
Ben, la première idée, c'est que tu prends comme du fil numéro 22, qui est quand même un fil assez petit. Du fil électronique, puis tu tisses comme la Death Star dans ton fil d'électronique là, puis ça tu fais une petite base, puis ça fait comme ton see-through Death Star que tu peux voir à travers, ou tu prends un morceau d'acétate.
Mais il y a une figurine qui vient avec l'hologramme de la Death Star, je pense.
Il est pas gros, tu sais, je parle de gros là.
Ah, ça, je veux dire, tu veux le faire gros là.
Ouais, celui-là qui
tient,
ouais,
à la fin du film.
Pas celui-là qui tient à la fin du film. Celui-là qu'on voit sur la table, là, brièvement, là, qui est quand même une bonne taille là, par rapport. Là. Il fait quand même, je pense, que si on parle en référence, là, il doit faire pas loin de 10 pieds de diamètre. Là.
OK.
De circonférence.
Faudrait que je revérifie le DVD.
pas de question, Martin? Danny?
Alors, c'était mais merci Frank pour
plaisir.
Fait que si tu es intéressé à revenir n'importe quand, tu vas être le bienvenu.
Mm-hmm. Tu peux toujours nous faire des chroniques d'ailleurs préenregistrées.
Ouais, ouais. Je viendrai une heure et demie en retard la prochaine fois, c'est comme ça.
Il va arriver juste à temps pour sa chronique après le sujet principal.
C'est ça. Donc, on va immédiatement aller à une pause musicale et après on va revenir avec nos critiques du roman The Final Prophecy et la chronique Star Wars Galaxies après. Un petit commentaire de Martin. Donc, on vient à Star Wars en direct. La voix de la communauté francophone de Star Wars dans quelques instants.
Star Wars en direct vous revient après ces quelques messages.
Nul besoin de traverser les ponts pour vous procurer vos produits dérivés de Star Wars. Priorité collection à tout ce que vous cherchez et bien plus encore. Venez découvrir nos nouveaux locaux sur la rive sud de Montréal au 2189 Chemin Chambly à Longueuil. Chez Priorité Collection, notre priorité est la vôtre. 450-651-8482.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com. Cyclan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.cyclan.net.
Et wow, re-bienvenue. Ben là, baisse-les. Voilà.
Je l'avais baissé.
Non, baisse-les. Limite.
OK. Re-bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. On vient de terminer une entrevue avec Frank Diorio, le webmaster de NumsUniverse.com. Vous pouvez aller visiter son site, soit directement avec le URL, ou aller sur LegendActionFigures.com, et le lien est facilement visible dans la colonne de droite.
Exactement. D'ailleurs, vous pouvez voir présentement une merveilleuse exposition d'une grande partie des dioramas de Frank Diorio chez Star Wars, chez Legends Action Figures, voyons. 7604 rue Saint-Hubert.
Exactement.
Jean Talon.
Donc, maintenant, on va discuter avec Thomas, qui est Belda sur cyclan.net. On va parler avec lui de du dernier roman de la série Nouvel Ordre Jedi, qui est The Final Prophecy. Bonjour, Thomas.
Bonjour, Denis.
Ça va?
Ça va, ça va.
Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce roman-là?
Alors, écoute, je vais t'en parler un peu.
Ouais.
Moi, j'ai beaucoup aimé.
Mm-hmm.
J'ai beaucoup aimé, mais il faut dire aussi que j'aime bien tout ce qu'a écrit Greg Kayes.
Uh-huh.
Bon, c'est la quatrième histoire là qu'il écrit dans Star Wars. Hein. Il y a déjà eu les conquêtes et renaissances là, à l'aube de la.
Oui, la trilogie.
L'aurore de la victoire. Ouais.
Ouais.
Et puis il avait aussi écrit une nouvelle là pour les magazines, Emissary of Void.
Mm-hmm.
Qui était déjà pas mal. Donc oui. Je m'attendais à quelque chose de bien.
Uh-huh.
Et j'ai pas été déçu, hein, puisque c'était vraiment un excellent roman.
Mm-hmm. En gros, l'histoire, qu'est-ce que ça raconte?
Alors, il y a deux intrigues qui se jouent un peu en parallèle. Il y en a une qui fait intervenir les Jedi, les Vong et la planète Zodama Sekot.
Oui.
Puis une deuxième intrigue, elle, plus sur le combat de l'Alliance Galactique là, contre les Vong, hein, le combat.
Pour reprendre la planète Bilimgri?
Voilà, alors ça commence d'abord sur Duro, mm-hmm. Et puis ensuite ça continue sur effectivement sur cette autre planète là qu'ils veulent reprendre pour ces chantiers orbitaux, hein.
Mm-hmm.
Ils sont dans leur logique là de construire toujours plus de vaisseaux là pour battre les Vong au nombre.
Mm-hmm.
Donc il y a ces deux intrigues là qui se jouent parallèlement. Alors la première, là, celle de Zodama Sekot, en fait un peu est dans la continuité là de la trilogie Force Hérétique.
Mm-hmm.
Donc ça fait le lien avec ces trois derniers romans du NGO.
Oui.
Et puis l'Alliance Galactique, elle, bon, est plus dans la suite un peu de l'histoire là depuis Destiny Way.
Mm-hmm.
où l'Alliance un peu a repris le dessus.
Tu essaies de reprendre des systèmes un par un dans le fond.
Voilà, et essaie de battre les Vong finalement qui se sont trop éparpillés dans la galaxie et qui n'arrivent plus à défendre leur conquête.
Mm-hmm.
Oui.
Un point qui, il y a plusieurs choses de moi, qu'est-ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est le fait que Bon, oui, on apprend beaucoup de choses sur les Zonama Sekot. C'était vraiment Greg Keyes qui s'occupait de développer surtout l'aspect culturel, si on peut dire, des Yuuzhan'vong dans justement l'aura de la victoire, comme tu parlais. Et puis, ils ont repris encore Greg Keyes, qui amène encore beaucoup à la culture Yuuzhan'vong dans ce roman-là. On apprend beaucoup. Même, on va dire les spoilers, dans le fond. C'est que ils soupçonnent, c'est pas écrit noir sur blanc, là, mais oui. Ils disent que bon, les Yuuzhan'vong viendraient de la planète Zonama Sekot. Alors, maintenant, ta théorie là-dessus, est-ce que ça serait plus Zonama Sekot qui est officiellement, par exemple, la planète officielle Yuuzhan'tar qui serait venue dans la galaxie Star Wars, ou que les Yuuzhan'vong viendraient directement de Zonama Sekot, mais qui seraient toujours restés dans la galaxie Star Wars?
Ben, moi, je sais pas si... je pense qu'ils viennent au départ de la galaxie Star Wars, parce que la planète ne pouvait pas bouger au départ.
Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas de technologie, théoriquement, au départ. Là.
Voilà, et par contre, là ce que je suis convaincu, effectivement, c'est qu'ils sont sûrement originaires de cette planète-là. Ça, ça fait aucun doute.
Il y a beaucoup d'indices qui pointent là-dessus. Voilà. Niemnum, non, c'est tout ça, ça, non? C'est...
Il y a énormément d'indices, mais même si ce n'est pas dit, parce qu'en fait, on garde le suspense pour le prochain livre. Hein.
Oui, Greg a fait un bon travail de nous...
Ah, c'est un prélude.
De nous préparer.
Carrément un prélude.
Voilà, ben justement, ça, c'était un point là qui est à la fois positif et négatif dans ce livre, c'est que il y a beaucoup de questions et pas de réponses.
Hein. Exactement.
Et les questions sont intéressantes, puisqu'en fait, c'est les questions qu'on se pose depuis le début, quoi. Mais en fait, les réponses, on les a pas encore. Et il faudra attendre le prochain livre. Et ça met la barre très haut, parce que si le prochain livre n'est pas à la hauteur, on risque d'être déçu.
Oui, ça, c'est bien sûr. Là. Je pense quand même que Lucino a 500 quelques pages pour nous pondre quelque chose de très, très décent.
J'espère aussi, mais je pense que ça va, à mon avis, ça va être quelque chose. Alors sinon, pour parler un peu des personnages,
oui.
Quand on regarde un petit peu qui interviennent en livre, on s'aperçoit finalement que c'est un peu comme dans la... comme dans la biologie Conquête et Renaissance. On retrouve Tahiri, Koran, Nanim, finalement on retrouve un peu les mêmes personnages, et c'est un peu finalement la suite de leur histoire, quoi, qu'on retrouve combien de bouquins après, une dizaine de bouquins plus tard.
Mais c'est vraiment une préparation. Moi, qu'est-ce que je faisais remarquer à Sébastien tout à l'heure, le fait que maintenant, on dirait vraiment qu'ils sont prêts à la bataille, ils n'auront pas besoin de présenter ça dans le prochain roman, c'est-à-dire que tous les combattants au sabre laser, si on peut dire Luke, Mara, Jason, Tahiri, Corran, sont tous ensemble, et puis ceux qui sont spécialistes plutôt pour se battre dans l'espace, Wedge, Jaina, Gilad, Paleon, etc., sont tous ensemble, prêts aussi à l'attaque, si on peut dire. Donc, il s'est servi de ce roman-là pour préparer la table, vraiment, en plaçant les personnages sur l'échiquier au bon endroit.
C'est un peu un prologue à The Uniting Force, là.
Ouais.
Et vraiment, là, ça va être un peu comme le premier chapitre du prochain livre, quoi.
Ouais, c'est ça.
Partout, et tout est prêt à jouer, quoi. Oui, effectivement. J'ai pas remarqué, effectivement, cette répartition des personnages. Mais c'est vrai que, oui, on peut le voir comme ça, oui. Parce que je pense que, le livre suivant va démarrer tout de suite après.
Oui, ben j'imagine. D'ailleurs, Zonama Sekot, elle sort de l'hyperespace à la fin, je crois. À part en hyperespace, elle sort, mais où elle sort-elle?
Là, c'est Enden, voilà.
Et on ne sait pas. Et ça risque de se jouer, d'être... Ça se trouve, je ne sais pas où elle va, moi, mais à mon avis, elle va aller chez les Vong. Hein. Sinon, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est justement les Vong, c'est Harar et Enanim.
Oui.
Puisque pour la première fois depuis 18 bouquins, là, de Dio, on a enfin en face des Vong là qui sont curieux, qui s'intéressent, qui essaient de réfléchir et qui finalement acceptent.
C'est ça. Ils ne sont pas maniés par les dieux Yuuzhan'vong. Ils sont vraiment. Ils ont leur propre caractère dans le sens.
Voilà, ils se font leur propre idée.
Ouais, c'est ça.
Ils font leur propre idée et ils se rendent compte que finalement les choses sont un peu différentes de ce qu'ils imaginaient eux-mêmes.
Exactement.
C'est vrai que ça, on l'attendait depuis longtemps quand même. C'est vrai que Harar et Enanim, c'est des personnages qui sont apparus déjà depuis un moment dans la série.
Oui, oui, oui.
Bon, qui ont eu pas mal d'histoires et ce personnage-là, moi, me plaise beaucoup dans le livre.
C'est dommage qu'il meure. Ben, on les fait croire morts, donc, mais quand même, je pense que peut-être Harar est peut-être pas mort.
Voilà, alors je l'espère aussi parce que c'est pas dit clairement. Il faut croire Nananor, là, hein,
ouais.
Parole. Mm-hmm. Bon, hélas, il a quand même pris un mauvais coup, Harar. Il est dur, mais ça serait pas mal, effectivement, parce que moi je le voyais bien un peu. Bah, en plus, c'est un prêtre, hein.
Ouais.
Donc je le voyais bien, finalement, se faire un peu le porte-parole pour essayer de convaincre les bons, quoi, qu'il y a eu.
Il
y a un problème quelque
parce
part.
Que là, parce que, mais il faut. Logiquement, ou qu'est-ce qui serait l'idéal, ça serait qu'un Vong, justement, seulement un Vong va être capable de convaincre d'autres Vong de.
Voilà. Au début, j'imaginais que ça serait Tahiri qui ferait ça.
Ouais. Ben, donc, présentement.
Oui.
Présentement, c'est probablement ça, vu qu'on les considère comme morts, les deux autres. Mais...
Alors, Tahiri, je pensais qu'elle ferait ça dès ce livre-là.
Ok.
On l'a présenté vraiment comme une nouvelle personnalité, moitié humaine, moitié Vong.
Mm-hmm.
Bon, finalement, dans le livre, bon, moi, j'aime beaucoup son personnage dans le livre, là, puisqu'elle retrouve un certain équilibre, et puis, elle fait son deuil d'Anakin, elle accepte, mais les Vong, enfin, elle a laissé tomber même sa haine contre Namine.
Mm-hmm.
Et donc ça, j'avais beaucoup aimé. Alors, je sais pas comment ça va se passer au prochain livre, parce que maintenant qu'on a découvert que Tahiri, en fait, on lui a implanté la mémoire de, alors c'est un spoiler, mais, de Namine.
Oui. Oui.
En fait, finalement, elle est pas vraiment morte, la modeleuse.
Ouais, dans le fond,
c'est dans... encore.
Elle est pratiquement, Niemnim elle-même, mais en version humaine.
Voilà.
Pratiquement. Peut-être que les connaissances vont ressurgir, elle va être capable de créer aussi.
Ça arrive d'être intéressant, oui, dans le prochain. Mm-hmm. Sinon, une chose que j'ai trouvé encore un peu dure dans ce livre, enfin, la seule chose qui m'a un peu déplu, c'est vraiment le personnage de Nananor.
Ouais. Ben,
il a vraiment trop de chance, ce personnage.
Oui, ça, j'avoue que.
Trop bien.
La façon dont il s'est sauvé du combat était très chanceuse.
Et depuis le début que ça dure sa chance, et ouais. Je trouve qu'il en a trop. Quoi. Ça fait un peu.
Exactement.
Ça fait du mal à beaucoup de monde, lui, quand même. Hein.
C'est ça. Ben, j'espère qu'il va mourir dans le prochain. Ça serait une bonne fin pour lui. Parce que je pense qu'on a vraiment exploré beaucoup le personnage. Là. Depuis le début de la série, on a vu tous les côtés de ce personnage-là. Ben, en tout cas, beaucoup de côtés. Et puis, moi, je trouve que c'est un vilain excellent. Je veux dire, après Palpatine, Darth Vader, puis Thrawn, là. Nananor est au top de la liste, là, vraiment. Là.
Ah oui, parce que finalement, il est encore pire que Shimra ou que Savong là.
Ben oui.
Il est pire qu'eux, puisque les autres, ils réfléchissent un peu, leur conduite est dictée, en fait, par les dieux, par la religion, par plein de choses. Alors que Nananor, là, c'est lui qui décide tout, quoi.
Il travaille pour son propre succès.
Voilà, pour son compte, ouais. C'est pour ça qu'il est dur, ouais.
Exactement.
Puis même les actions que Nananor.
Voilà, sinon,
Même les actions que Nananor pose avant la série NGO, dans la série. C'est quoi, c'était Crimson Empire 2.
Oui, dans la BD.
C'était assez effrayant, là.
Enfin voilà, donc maintenant pour dire deux mots là, sur le prochain livre, hein, qui arrive bientôt.
Oui.
Donc le mois prochain.
Une chance que c'est rapide.
Oui, heureusement, hein, parce que nous a pondu The Final Prophecy, là, on peut dire que c'est à suivre, en fait. Hein.
C'est peut-être un indice, d'ailleurs, la proximité des deux sorties de livres que The Final Prophecy est un prélude. Parce que la sortie est très rapprochée, les deux.
Oui, enfin, les deux sont liés, ça c'est sûr.
Mm-hmm.
Mais alors ensuite, bon, de quelle façon la licence va se terminer, alors ça, moi, j'en ai encore aucune idée, hein. Comme on a dit tout à l'heure, là, c'est clair qu'il y a un lien entre Zona Massekot et les Vong.
Mm-hmm.
Bon, on peut imaginer que c'était leur planète d'origine et qu'en fait ils en étaient chassés. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir y retourner? Est-ce que la planète va accepter les accueillir?
Mm-hmm. Justement, comment Zona Massekot, c'est quoi la théorie? Pourquoi que les Vong sont invisibles dans la Force? Est-ce que c'est le fait, on suppose que Zona Massekot leur a enlevé ce pouvoir-là s'ils viennent de cette planète-là. Mais comment ils l'ont enlevé, comment ils vont le redonner?
Pourquoi ils l'auraient enlevé, finalement?
Ouais, c'est ça. Pourquoi? Probablement qu'ils ont fait la guerre ou quelque chose, puis...
Péché capital.
Puis ils les ont envoyés pétrir dans le vide, là, je sais pas.
Oui, mais alors, ça serait la raison pour laquelle ils auraient été chassés. Mais je veux dire, quel est le but de les enlever de la Force, quoi?
Ouais.
Est-ce que gagne la planète, ça? Moi, je vois pas trop encore. Là.
De leur enlever une arme de plus, dans le fond.
Oui, ça peut être une arme. Oui.
S'ils seraient sensibles à la Force, puis ils pourraient avoir des Jedi aussi méchants, ça serait quelque chose. J'ai même lu sur un forum à quelque part, il y en a qui pensent que il y aurait un lien avec les Sith maintenant. Je ne crois pas, mais...
Bon, ça me paraît difficile quand même.
Ouais.
On sait qu'on en parle très très peu dans les livres.
Exactement. Même c'est si ça, dans le jeu vidéo Knights of the Old Republic, il y a un petit cliché au Yuuzhan Vong. Puis ça se passe 4000 ans avant...
Je pense que c'est un petit peu poussé.
Ouais.
Quoique, pas impossible, mais c'est quoi? Ce serait les grands cousins des Massassis,
ouais,
quelque chose
ouais.
de même?
Je penserais... Non, je pense pas que les Sith sont impliqués là-dedans. En plus de ça, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, on apprend que l'amiral Palayan a un fils.
Ah oui, oui.
Dans le film, c'est dommage qu'il meure aussi rapidement. On n'a pas eu le temps de le découvrir.
C'est le Darth Maul du livre dans le fond. Là. On le voit, il apparaît, il dit quelques mots puis il meurt.
Bah, on aura peut-être droit à une série où il sera le héros.
Ouais, une petite histoire peut-être.
Avant,
ouais.
Mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un personnage qui est assez sympathique. Hein.
Oui, c'est comme. Il me faisait penser à Han Solo un petit peu. Là.
C'est ça, en fait. Donc Han Solo est.
Il était son idole aussi.
C'est son idole, voilà. Et bon, c'est vrai que là. Bon, d'un côté, c'est bon, ça apporte quelque chose. Enfin, ça apporte au personnage de l'amiral. Hein,
mm-hmm.
Puisque ça montre que, bon, bah, il avait une vie aussi à côté, quoi. Hein, et puis que cette guerre lui coûte.
Uh-huh.
Et bon, c'était dommage effectivement de se débarrasser du personnage comme ça au bout de quelques pages.
C'est ça, il y a quand même eu quelques morts si on compte. T'as eu justement, je me souviens plus, c'est Davis son nom? Davis?
Oui, c'est ça. Oui, c'est...
T'as Pash Kraken qui est un des commandants d'un des Star Destroyers. D'une corvette ou...
C'est Memory of Eitor. Non, c'est pas Memory of Eitor, c'est.
Ah. Enfin, t'as Harar, t'as.
Niem
qui meurt. C'était quand même des personnages importants, secondaires, mais on voit que ça peut préparer pour le prochain. Penses-tu qu'il y a un personnage principal qui va mourir?
Ah, bah ça, c'est une discussion que j'avais lancée là sur le forum. Et les gens sont assez partagés là-dessus. D'un côté, moi je pense que oui.
Mm-hmm.
Parce que quand on regarde, on voit qu'il y en a un qui disparaît dans le premier tome,
mm-hmm.
Chewbacca. Il y en a un qui disparaît juste au milieu de la série.
Ouais, Anakin, oui.
Anakin. Et, si on veut être logique, il n'y en a rien à la fin aussi, quoi.
En espérant que ce ne soit pas exponentiel d'importance.
Mais oui, mais alors lequel, je ne sais pas, parce que finalement, il y a un choix assez vaste. Mm-hmm. Est-ce que d'un côté, beaucoup de fans ont été un peu mécontents de ces disparitions?
Oui, j'avoue.
L'éditeur va pas écouter un peu la colère de certains. Uh-huh. Bon, ok.
Moi, j'avais toujours pensé que Luke mourrait, mais... Je me revise parce que jamais George Lucas va faire mourir Luke romans. Là.
Ça aussi, ça aurait pu être beau, enfin grandiose, quoi.
Mais c'est, il se sacrifie pour la galaxie, là.
Ça, c'est pas probable, mais bon, il y a du choix dans les personnages. Hein, mm-hmm.
Il y a Mara Jade que je trouve qu'elle a été très peu exploitée depuis Étoile par Étoile. Mara Jade.
Ouais, oui.
Et puis en plus, elle est comme plus agressive maintenant hein, depuis qu'elle a depuis que Luke et elle ont eu un enfant. C'est vraiment, elle est beaucoup plus agressive. Et je me demande ça serait quoi le résultat que Mara serait mort puis que Luke devrait élever son jeune garçon.
Oui, mais alors ça on pourrait l'imaginer quand on réfléchit à une suite.
Ouais.
Il doit y avoir justement une trilogie là qui sortira.
Ouais, avec Troy Denning, oui.
Ça passera un peu de temps après.
Mm-hmm.
Mais là, par rapport à la fin même du NGO, la mort de Mara, ça n'apporterait pas grand-chose.
Mm-hmm.
Et puis en plus, c'est un personnage qui est très populaire dans l'univers étendu. Alors, si on se débarrasse.
Mais c'est un personnage de l'univers étendu, contrairement à Chewbacca.
Oui.
C'est ça la différence. Est-ce qu'ils vont encore aller vers un... Est-ce qu'ils iraient vers un personnage principal? C'est ça qui est difficile à...
De la trilogie originale.
De la trilogie originale. Là,
moi, je ne sais pas si ce serait intéressant d'avoir un personnage de trilogie, parce que... Parce que finalement, les lecteurs là du NGO, bon, eux, ben, là, ils viennent de lire 18 livres du NGO, ils sont plus, je dirais, imprégnés par les personnages de la guerre contre les Bong.
Mm-hmm. Ouais.
Parce que finalement, les films, là, je pense qu'on se situe un petit peu à un autre niveau, quoi.
Ouais.
Et si la mort de Wedge, par exemple, aurait plus, moi je trouve, de poids par rapport à l'univers étendu.
Mm-hmm. C'est vrai.
Que celle de Lando, qu'on a quasiment pas vu dans le NGO.
Oui, Lando, d'ailleurs, qui fait un petit caméo qui...
Et oui, je suis là, je ne suis pas mort.
Je suis toujours en vie, toujours aussi profiteur.
Et par exemple, si Lando disparaissait, je trouverais ça un peu sans intérêt, parce qu'il n'a pas du tout... Enfin, il a eu un petit rôle, mais... Si des personnages doivent disparaître, il faut que ce soit des personnages qui ont eu un vrai rôle dans l'histoire.
Mm-hmm. Et puis, c'est vrai que Wedge de mourir serait c'est rendu le plus grand général maintenant.
Ça donnerait un gros coup.
C'est ça.
Mais bon, il y en a d'autres. Alors, il y aurait Belle Iblis, là, il y aurait...
Mais ça n'aurait pas autant d'impact encore.
Mais oui, mais justement, Wedge aurait plus d'impact, parce que Wedge, c'est quand même un des personnages principaux de la série X-Wing.
C'est ça. Puis il sort des films aussi, ce personnage-là. C'est un personnage secondaire, mais il sort des films. Donc, ça pourrait être un personnage qui pourrait mourir.
Alors, on avait pensé à... Certains avaient pensé à Akbar aussi.
Oui, Akbar qui est très malade, ce serait...
Et en fait, ça a été refusé.
C'est vrai. Ben, ça a été refusé dans Destiny's Way.
Voilà.
Ça va être refusé encore...
Alors, si ça a été refusé dans Destiny's Way, là, ça sera refusé aussi, je pense, dans ce livre-là.
Mais... OK.
Mais bon. C'est dommage.
Et puis, comme note à ce roman-là, qu'est-ce que tu donnerais?
Alors moi, je lui mettrais 15 sur 10. Non, mais je lui mettrais...
15 sur 10?
Je lui mettrais le maximum parce qu'en fait, j'avais pas énormément aimé la Force Hérétique. Hein.
Mm-hmm.
C'est un petit peu ennuyé et pour moi, c'était sur NGO, c'était comme si j'en avais pas eu depuis un an.
C'est vrai.
J'en attendais beaucoup et j'ai vraiment été comblé, donc je lui mets 10 sur 10. Sans problème.
C'est ça, parce qu'on savait aussi que la fin approchait, puis ils nous ont vraiment donné ce qu'on voulait, ben, en partie, mais ils nous ont préparé. Ils nous ont comme agacé avec ça, là.
Avec ce secret, là.
Ouais.
Oui, mais, ça,
d'ailleurs,
c'est ça. Par la suite.
Ouais. C'est ça. Ils ont fait mourir, justement, Nemim, juste au moment où elle allait dire quel était le secret, tu sais. C'est vraiment à la dernière minute.
Alors ça, j'ai trouvé ça dur parce que comme toi, là, je l'ai lu, je lis, j'ai découvert le secret, j'ai tout compris, tout va aller bien maintenant, mais j'ai besoin de temps pour me reposer, évidemment, entre-temps, elle se fait tuer par un Nanador, quoi.
Ouais, exactement.
Et heureusement, il y a quand même une petite piste, c'est qu'à la fin, Sekot, la planète, là, a dit qu'en fait, pendant le contact qu'il a eu avec Nanim, en fait, a enregistré toutes ses connaissances.
C'est ça. Ça pourrait être intéressant parce que Niemnim, elle a toutes les connaissances, tous les cortex de 1 à 8, là, ou un truc comme ça. Elle a toutes les connaissances des Yuuzhan'vong, et puis Zanama Sekot, elle a toutes les connaissances de la galaxie, pratiquement. Imaginons maintenant que Zanama Sekot est le dieu Yun Yunzan qui aurait créé les Yuuzhan'vong. Qu'est-ce qu'il peut créer maintenant qui a toutes les connaissances de tout complètement? Ça serait...
Alors ça, ce serait intéressant parce que ce serait une porte de sortie, c'est que si effectivement la Zanama Sekot est le
dieu Yuuzhan'vong,
il serait bien obligé finalement d'accepter son guide, quoi.
Uh-huh.
Obligé d'accepter ce qu'elle leur ordonnerait, et donc ça serait une sortie à la guerre, ça serait pas mal ça. Parce que moi j'avais imaginé peut-être que les Vong s'étaient créés des dieux, des divinités, après avoir été expulsés justement de leur planète,
mm-hmm.
pour un peu cacher la vérité, créer finalement une mythologie, là.
Mm-hmm.
Et puis oublier qu'en fait c'est parce qu'ils avaient été exclus, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut s'imaginer que ceux qui les aient créés, ça soit la planète. Alors moi, ce qui me surprend, c'est que cette planète là, pour ceux qui ont lu La Planète Rebelle, je crois, ça titre, donc avec Anakin et Obi-Wan, Obi-Wan. Donc en fait, on a l'impression que la planète, il y a assez peu de temps qu'elle a sa conscience.
Ouais, c'est vrai.
On a l'impression que ça fait finalement quelques années ou quelques dizaines d'années, voire centaines, mais ça fait pas quelques...
Non, mais Planète Rebelle, si on prend le temps, ça ferait 50 ans environ. 50 quelques années.
Et alors, si effectivement c'est la planète qui a créé les Vong, là on peut imaginer que cette planète, elle a sa conscience, elle l'avait déjà depuis peut-être un million d'années, quoi.
Ouais.
Alors ça me gêne un peu, il y a quelque chose là que je trouve un peu bizarre.
Il y a des éléments manquants.
Voilà. Est-ce qu'elle a été amnésique? Est-ce qu'elle a oublié, moi, peut-être?
Peut-être.
Elle a eu un traumatisme, une guerre, qu'elle a été blessée. Peut-être qu'elle a oublié que finalement c'était la planète des Vong,
mm-hmm.
et qu'elle va s'en souvenir grâce finalement aux connaissances de Nine.
Exactement.
C'est possible.
C'est une planète qui a été créée par les Yuuzhan'vong dans leur galaxie, mais elle est tombée dans un trou noir, puis elle s'est ramassée dans la galaxie de Star Wars.
Elle a pu prendre un raccourci, pour aller dans
l'autre. Et voilà, c'est ça.
Vas-y.
On va dire qu'avec les régions inconnues, là, dans la mesure où il y a quand même, avec la partie région inconnue, là, il y a quand même une grande partie de la galaxie qu'on connaît pas.
Mm-hmm.
Alors, on peut imaginer qu'en fait, les centres forcés, que les Vong viennent de notre...
D'un coin reculé, oui.
Parce que, il y a quand même tout n'est pas connu encore, tout n'est pas cartographié, tout n'est pas... Donc c'est possible sans que ça soit trop gros comme pixel.
Mm-hmm. Ouais, j'avoue que je ne peux plus attendre. Bon, mais je te remercie, Thomas.
De rien.
C'était bien gentil de nous parler, et puis on se reprendra pour d'autres romans.
D'accord.
Donc, je te remercie. Nous, on va retourner à l'émission. Au revoir.
Okay. Au revoir.
Merci, bye. Et ouais, voilà. Ça. Oui, en effet, Martin, c'est fucked up comme...
comme univers.
Comme histoire. C'est-à-dire qu'il y a une planète qui est vivante. Oui. C'est qu'il y a une planète qui est vivante là-dedans.
C'est ça.
Dans cette série-là. Okay. Et puis, les Yuuzhan'vong viendraient de cette planète.
Ah, d'accord. Ben, c'est ça. Quand tu as commencé à parler de Rogue Planet, celui-là, je l'ai lu.
OK.
Puis c'est ça. Je trouvais que le livre menait nulle part. Mais s'il fait partie d'un plus grand portrait, bon,
exactement.
Ça peut être intéressant.
On l'a nommé le NGO numéro 0.
C'est ça.
Le prélude.
Ouais,
le NGO numéro 0 non officiel.
Oui, parce qu'il reparle beaucoup des événements qui s'est passé dessus. Même les petits vaisseaux qu'il faisait.
Ouais.
Bon, ils sont dans la série NGO. Là, puis les Yuuzhan'vong essaient de comprendre la technologie de ça.
D'accord.
C'est vrai qu'il y a un grand portrait à cette histoire-là. Et voilà, c'était...
Mais moi, j'aimerais ça lire un petit extrait, okay. Là, qui est quelques phrases du début du chapitre 16, justement, du livre Final Prophecy. Je l'ai trouvé très bien. J'y donne juste une note de 7.5 sur 10, par contre.
Okay.
Ben, j'ai été déçu. Effectivement, notre ami Lucino va avoir énormément de travail à faire dans The Unifying Force pour tout terminer la série, répondre à la majorité des questions. En laisser quelques-unes pour Tridening, ça me dérange pas, mais il y a du boulot à faire. Là,
rattacher les liens ouverts.
C'est ça, il faut que ça se finisse la guerre avec les Yuuzhan'vong dans ce livre-là. Il y a beaucoup de questions à répondre.
D'après moi, c'est tout simplement qu'il va y avoir quelqu'un la planète qui va réussir à convaincre une autre autorité que la planète, c'est vraiment de là. Puis Yuuzhan'vong vient. Fait que là, ils vont tous être heureux de pouvoir retourner sur leur planète. Et puis, ils vont arrêter de se battre, tout simplement, puis ils vont aller habiter sur la planète. Ça pourrait être aussi simple que ça. Mais, une affaire que je trouvais étrange, c'est Nomanor, toutes ses prédictions ont tout le temps, dans tout le long de la série,
ils
ont toutes réalisées. Puis lui, il faisait ça comme une joke. Il disait, bon, on vient d'une planète, ça va être la prophétie, notre planète va nous retrouver, puis etc. Puis ça a tout le temps, même s'il faisait ça pour une joke, est-ce qu'il y a un pouvoir spécial, cette personne-là.
Il est-tu rendu affecté par la force? Oh, peut-être, attention. Alors, pour le petit extrait. Bill bring his system in 10 minutes, Commander Rage of Mon Mothma announced. Prepare for imminent combat. Wedge clasps his hand behind his back, didn't like the feel of it, and crossed his arm in front of him instead. Staring into the nothing of hyperspace, wondering what would greet him when they decanted. You fought at Bill bring it before, didn't you, sir? Lieutenant Cell asked. Against Tron. Wedge gave her a tight grin with a little reel of humor behind it. Are you a student of ancient history, Lieutenant? No, sir. I was 10 during the blockade of Coruscant. I remember it very well. Ça, c'est juste un des extraits qu'on peut lire dans Final Prophecy.
En français, ça serait...
Qui nous ramène un peu en arrière. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de
flashbacks.
De flashbacks, de points où on s'assoit, on attend, puis... On regarde qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé un peu dans les séries. En fait, ce qu'ils se disent, pour le traduire rapidement en français, ils se préparent à retourner à Bill Bringy,
mm-hmm.
où ils se sont déjà battus contre le Tron. Grand Admiral Tron, qui était d'ailleurs la grande bataille finale de la trilogie de Tron de Timothy Zahn. Et la lieutenant de Wedge, lui dit, on retourne là. Un bon, tu sais, quelque part où tu t'es déjà battu, où tu as déjà de l'expérience, puis tout ça. Puis, on voit qu'il y a comme un espèce de petit feeling, là, que Wedge, il dit, ça me tente pas, là.
C'est ça.
Puis, un petit peu plus loin, d'ailleurs, c'est ça qu'on découvre, il dit, j'espère que c'est la dernière fois que je reviens dans ce système-là, parce que j'ai jamais aimé ça venir ici. Toujours eu des mauvaises surprises en sortant, puis tout ça.
Exactement.
Et, Ce que j'ai remarqué d'ailleurs dans le petit extrait que je viens de lire, c'est Wedge qui met ses mains en arrière de son dos.
Comme Darth Vader.
Ben, qui croise ses mains comme la majorité des impériaux.
Puis il dit, non.
Ça sonne pas bien, fait qu'il se croise les bras par en avant. Tu sais. Je trouve que ça fait quand même assez comique. The Final Prophecy, qui est un livre très intéressant, qui a plusieurs...
Moi, il est très court. Qu'est-ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est que j'étais vraiment pas capable de m'arrêter parce que moi, j'étais convaincu qu'on apprenait quelque chose de majeur. Fait que je le disais. On a eu des entre les lignes, on pouvait lire entre les lignes un peu, mais on n'a pas eu la réponse écrite noir sur blanc. Donc,
c'est ça.
Moi, je le lisais comme un malade, puis j'arrêtais pas pratiquement, là.
Mais... Quand même, des faits inquiétants là, qui arrivent vers la fin du livre. Justement, on disait que Zonama Sekot part en hyperespace, elle ressort à la fin du livre. Puis là, la dernière phrase qu'on peut lire des événements qui ont lieu sur Zonama Sekot, et le vent arriva. Quel vent! Oh, attention! Est-ce qu'on retourne un peu au radio drama A Wind to Shake the Stars?
Ooh. Oh!
Ça serait un joli clin d'œil. On ne sait pas ce qui s'est passé.
Ben, c'est peut-être simplement... c'est peut-être juste un phénomène physique. La planète arrête. Ben, là, il n'y a plus d'élan. Fait que là, les
on sait, on sait justement que Nomanor a saboté, entre guillemets, ouais. Zonama Sekot. Et ça l'a peut-être affecté plus qu'elle pense. Mm-hmm. On ne sait pas. On sait qu'elle a adopté la forme éthérique de Nenyim,
ouais.
À la fin du livre aussi, à la grande surprise de Tahiri d'ailleurs, qui est un des personnages que j'ai énormément adoré.
Je la trouvais dans Force Heretic un petit peu chialeuse, et à cause de sa double personnalité, là. Dans le temps, puis elle a maturé, là.
C'est ça.
Dans ce livre.
Elle mature tranquillement, pas vite. Coran devient son maître non officialisé par Luc encore, mais j'ai l'impression que ça risque de rester en tant que tel. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est Coran, justement, qui saute dans un puits d'ascenseur, puis il se concentre super gros, puis il sert de la lévitation. Puis on sait que ça n'a jamais été sa matière forte dans la force.
Il est capable d'absorber l'énergie, mais il n'est pas capable de...
C'est ça. Ça, je l'ai trouvé drôle. Puis d'ailleurs, ce qui fait la façon que Tahiri devient la padawan de Coran, j'ai beaucoup aimé ça parce qu'elle dit, s'il y a quelqu'un qui peut me comprendre, c'est bien toi. Parce que elle a des problèmes comme lui, il en a eu quand il était plus jeune, avec sa force. C'est quand même des liens là, qu'on retourne loin là, chercher. La série NGO, méchant pas par en avant dans l'univers étendu de Star Wars.
Ouais. Alors, on finit avec cette chronique-là.
C'est cela.
Et puis, moi, je donne un 4 sur 5, là. Un 8 sur 10 à ce roman-là, à peu près. Donc, maintenant, Martin.
Oui.
Es-tu prêt?
Oh!
La voix qui fait crouler ses dames.
Oh, mon Dieu.
Parle plus proche du micro, okay. Un petit peu. Alors, petite chronique Star Wars Galaxy. Mm-hmm. On n'a pas eu de chronique Star Wars Galaxy depuis la sortie du jeu. Qui était fait par notre copain Shunka, qui est maintenant déménagé en Amérique du Sud, aux îles Guyane,
dans les îles de la Guyane française.
Donc, avec un serveur à plat, c'est pas pratique de communiquer avec lui.
Exactement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la sortie du jeu? Comment va la communauté, etc.? Vas-y comme tu veux. Là.
Ben, c'est intéressant que tu utilises le terme communauté, parce que c'est vrai qu'il s'est formé des communautés plutôt intéressantes. Même si ça varie beaucoup d'un serveur à l'autre.
Okay.
On sait qu'il y a maintenant 22 serveurs. Au bout de deux mois, après la sortie du jeu, il y avait 275 000 joueurs enregistrés.
Okay.
Ça a supposément battu plein de records. Galaxies est rendu le deuxième MMORPG sur la liste après le classique EverQuest, celui qui a établi les records, dans le fond. N'ayant jamais joué de MMORPG avant Galaxy, c'est difficile pour moi de tracer des parallèles. Par contre, à travers des discussions avec d'autres gens en ligne, j'arrive à faire des comparatifs quand même assez bien établis. L'essence du jeu semble être axée beaucoup sur le roleplay, mais plus les gens chez Sony Online et LucasArts se sont forcés, j'ai l'impression, pour nous donner vraiment un outil de base stable et malléable avec lequel c'était à nous de travailler. Ils se sont dit, on va se concentrer tout d'abord sur la stabilité et l'efficacité d'un univers ample et développé. Et c'est vrai qu'il est ample et développé
à chaque expansion, il y a des petits correctifs qui s'apportent au problème. Il y en a encore. Probablement qu'il va en avoir tout au long de l'existence de ce jeu-là, parce qu'il y a évidemment les gens qui veulent jouer ce jeu-là avec sincérité, puis il y a toujours ceux qui essaient de
contourner le système.
De contourner le système, exactement. Donc, ça va toujours demeurer un jeu de souk à la corde à ce niveau-là. Pour l'instant, je dirais que l'environnement l'emporte beaucoup du côté des gens qui veulent apprécier l'environnement. Mm-hmm. Et puis, ce qui est le fun, c'est que à cause d'une interface aussi ample que ça, puis autant de possibilités qu'on peut faire, il est facile de ne pas être concerné par les problèmes de ce qu'on appelle les... Il y a un terme... C'est drôle parce que depuis que je joue à ce jeu-là, j'ai comme une nouvelle terminologie qui s'est
un jargon Star Wars Galaxy.
Ben, un jargon à MMORPG plus.
Okay.
Des termes comme nerf, mob, plein de choses comme ça qui sont un peu, qui sont encore un petit peu intrigantes pour moi. Mais tout ça pour dire dans le fond que le, étant un joueur qui aspire beaucoup plus au roleplay que d'essayer de casser le système puis de d'être le meilleur dans tout, moi mon but c'est de vivre une expérience positive puis de m'amuser avec d'autres gens en ligne.
Vive l'univers Star Wars.
C'est ça, exactement. J'ai bien aimé la campagne publicitaire du jeu. Lorsqu'ils l'ont lancé, ils disaient vivez une expérience dans... si je me souviens bien, en anglais, c'était experience the greatest saga ever told, yours. Mm-hmm. Donc, la saga la plus intéressante, c'est pas celle, celle qu'on connaît, c'est celle que vous allez vivre. Mm-hmm. Donc, préparez-vous à faire votre propre saga de Star Wars. Et c'est vrai. On parle souvent du Expanded Universe de Star Wars, et je crois que Star Wars Galaxy s'est découpé une taille de choix dans l'Expanded Universe. Ça m'étonnerait pas qu'on commence à voir de la fiction basée sur...
Ben, il y a un roman qui sort dans un mois sur Star Wars Galaxy.
Voilà. Il y a beaucoup de sites web intéressants, des joueurs qui se font des sites web. Ils se montrent, c'est un cadrage qui ressemble beaucoup à une BD. Mm-hmm. Parce qu'il y a un engin de capture d'écran dans le jeu qui est vraiment super simple, il fonctionne à merveille, il fait des super images de qualité. Et puis, il y a des gens qui sont amusés à faire des bandes dessinées.
Ils racontent leur histoire.
Ils racontent leur histoire, exactement, sur leur site web. Ils s'amusent énormément. D'ailleurs, le site eux-mêmes se servent d'une formule comme ça pour raconter. Pour essayer d'émoustiller un peu les activités, puis forcer l'interaction entre les rebelles et les impériaux. Les gens chez Sony ont mis en place un système de monthly story, des histoires à tous les mois. Mm-hmm. Un arc se déroule sur 3 mois, donc c'est des trimestres. On connaît le chiffre magique dans Star Wars, c'est le chiffre 3, évidemment. Mm-hmm. On a une introduction, un développement et une conclusion.
C'était une histoire sur Alderaan, quelque chose qui avait rapport avec Alderaan.
Ben, c'est les pleurs d'Alderaan.
Okay.
Le premier épisode s'appelle Les pleurs d'Alderaan. Mm-hmm. L'acte 1 s'est terminé à la fin du mois de septembre. Mm-hmm. Et je suis heureux d'annoncer que c'est les rebelles qui l'ont emporté. parce que de la façon que ça fonctionne, c'est que c'est des petites missions que les joueurs rebelles et impériaux doivent remplir. Pour rester bref, l'acte 1, il y avait des communiqués de sécurité concernant un projet qui s'appelait Dead Eye. Mm-hmm. Et puis ces informations-là étaient en circulation. Donc les joueurs avaient pour mission de récupérer les disques et de les ramener à leur recruteur approprié. Donc si on était un joueur impérial, on récupérait les disques impériaux. Parce qu'il y avait deux jeux de disques. Il y avait une communication impériale et une communication rebelle. En tant que joueur impérial, si tu récupères la communication impériale, tu te trouves à protéger la communiquée. Mm-hmm. Et puis, si tu récupères la communication rebelle, tu te trouves à espionner sur les rebelles. Donc, les joueurs faisaient ça, et ainsi de suite. Et lorsque on réussissait à... Parce que la façon que ça fonctionne, c'est que les communiqués étaient déconstruits en 4 disques séparés qu'il fallait regrouper pour ensuite pouvoir le lire, pouvoir le décoder, le lire et le remettre à nos recruteurs appropriés. Maintenant, ce qui est arrivé, il y a un léger problème de déséquilibre présentement au sein de la communauté de Star Wars Galaxies. Mm-hmm. C'est que le côté rebelle est nettement plus populaire que le côté impérial.
Tout le monde veut jouer les bons.
Exactement. Il y a des rumeurs qui courent que le pourcentage se résume à peu près à 3 ou 4 rebelles pour chaque impérial. Donc,
si on continue de cette façon-là, les histoires à tous les mois vont être biaisées. Il va falloir que les développeurs travaillent un petit peu pour aider la cause impériale.
Ils peuvent pas rajouter des NPC impériaux pour compenser.
C'est pas vraiment les NPC. À ce niveau-là, ce qui arrive,
Il faut que ce soit des joueurs qui fassent l'aventure.
Ce qui arrive, c'est que c'est une aventure interactive. Mm-hmm. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que pour chaque joueur qui termine l'aventure, c'est un vote vers le compte final.
Okay.
Mais, présentement, si on regarde la situation géopolitique comme elle l'est, dans Galaxies, c'est clair que les impériaux sont pas prêts de la gagner.
Ce qui est surprenant, parce que à cette époque, ils contrôlent la galaxie au
exactement,
complet.
Exactement, oui, parce que on se situe, c'est tout juste après la bataille de Yavin 4. Okay. Donc, l'environnement se situe à cette période-là. Les rebelles ont été chassés de Yavin 4. Par contre, il reste des petites cellules rebelles sur Yavin 4. J'ai appris tout dernièrement qu'on pouvait y trouver Luke. Et un général rebelle, ainsi de suite. Okay. Il y avait d'autres personnes clés, mais j'oublie les noms. Mais ça faisait longtemps que je cherchais. J'avais trouvé Han, Leia, Chewbacca, Wedge et compagnie. Tout ce monde-là, je les avais trouvés. Okay. Mais j'avais pas trouvé Luke encore. Donc, j'étais content d'avoir réussi à trouver l'endroit, malgré que j'y suis pas allé encore. Parce que Yavin 4 est un endroit plutôt hostile.
Ah, j'en doute pas. C'est assez jungle et il doit avoir beaucoup de bestioles.
Oui, et elle est sous emprise impériale maintenant. Okay. Après que les impériaux aient décidé de chasser les rebelles. Mm-hmm. Ils veulent pas les revoir là. C'est évident. Donc, j'imagine que l'empereur doit avoir une idée de la signature que la force a sur cette planète-là. Mm-hmm. Donc, il veut certainement pas voir les rebelles se pointer là. Mm-hmm. Je suis curieux d'y aller justement pour aller me chercher de l'information comme ça parce qu'ils respectent énormément ce qui a été développé autant dans les films que dans l'Expanded Universe de Star Wars. Ils sont très respectueux à ce niveau-là. On vient tout juste de commencer l'acte 2, justement, des Pleurs d'Alderaan. Mm-hmm. C'est bien monté, c'est immersif, même si c'est quelque chose d'assez bref parce qu'il faut permettre, faut pas non plus la rendre trop compliquée. La chose, parce qu'il faut permettre aux gens de pouvoir le compléter au sein d'un mois. Parce que ça se déroule.
Il y a des joueurs occasionnels aussi.
C'est ça. C'est pas tout le monde qui est prêt à mettre 36-40 heures de jeu par semaine mm-hmm. dans le jeu. Malgré qu'il y en a beaucoup. Il y a des gens qui toujours en ligne, moi y compris. Pour ce qui est de l'environnement, de l'univers, et pour émoustiller l'essence Star Wars, mm-hmm. si on veut, la saveur Star Wars, personnellement, je trouve qu'ils font un bel effort au niveau des développeurs. En même temps, ils ont la responsabilité de s'assurer que le jeu demeure stable mm-hmm. et efficace et une expérience positive à jouer.
Comment que la communauté se comporte?
La communauté est très variée. Il y a évidemment, on a parlé des gens qui, leur but, c'est d'avancer
tuer.
Le personnage. Non, mais pas de tuer, mais tout simplement d'appuyer, de pousser le personnage à ses limites. Mm-hmm. La problématique, c'est que le jeu n'a pas été conçu pour ça. Donc, on peut facilement dépenser ses 250 points d'habileté. Et moi, personnellement, il m'en reste 17, donc je vais faire attention aux habiletés que j'apprends. Mm-hmm. Je vais probablement être obligé d'oublier certaines choses que je trouve intéressantes parce que ça joue directement dans une phrase clé. De Star Wars, c'est Yoda à un moment donné qui dit « You must unlearn what you have learned » afin d'avancer. Donc, c'est une petite touche émotive intéressante des fois. Puis il y a plein de... Quand on s'assied, puis on fait l'effort un petit peu de faire la traduction, de faire le lien entre l'univers établi puis ce qui se fait dans Galaxies, c'est facile de rejoindre les deux.
Tes plus grosses surprises depuis le début, depuis que le jeu est sorti?
Depuis le début... ma capacité à fonctionner sans sommeil. Je pensais que j'avais poussé mes limites quand j'allais au cégep, mais j'en découvre des nouvelles.
C'est parce qu'il y a la moitié de ton cerveau qui dort
pendant que tu... Exactement, c'est ça. D'ailleurs, on a une farce intéressante. On s'amuse à dire que quand on est dans Galaxies, on est dans le vrai monde, puis quand on n'est pas dans Galaxies, on est dans une réalité virtuelle.
Okay, c'est comme la Matrice.
Notre vraie vie n'est pas celle qu'on a de chair et de peau, c'est notre vie électronique, si on veut.
C'est ça. C'est-tu plate que les crédits soient pas transférables dans la réalité?
Malheureusement, j'ai pas plus d'argent dans la vraie vie. Étant un médic, je ne suis pas vraiment... c'est pas le métier qui rapporte le plus au monde. On fonctionne beaucoup sur la générosité des gens. Je pourrais décider de ne pas guérir les gens tant qu'il m'aurait pas payé un minimum, mais personnellement, je considère que ça va. Je m'amuse à dire que j'ai fait mon vœu d'Hippocrate au sein du jeu, et puis je le respecte pleinement. J'ai d'ailleurs des créatures qui sont nommées en fonction. J'ai Marie Curie et Louis Pasteur qui me suivent constamment là, pour aider à guérir les autres.
Tu parlais du réalisme tout à l'heure. À quel point c'est respecté? Est-ce que les Stormtroopers sont aussi mauvais tireurs? Est-ce que les bestioles sont aussi menaçantes qu'ils sont dans les films?
Oui. Lorsque tu tournes le coin puis il y a un Rancor...
un Rancor, oui, c'est
pas mal. C'est un petit peu inquiétant. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que y a des personnages qui deviennent des creature handlers, donc qui peuvent mater des créatures et leur faire.
Les éleveurs, ouais.
Les éleveurs. Ben, c'est pas. Il y a des éleveurs, il y a même des généticiens.
Okay.
Donc, moi, j'attends de voir un. J'attends de voir un wart avec le code génétique d'un Rancor, là, ça risque d'être intéressant. Ou un Tauntaun à base de Great Dragon, là, ça risque d'être un peu inquiétant, ça.
Tassez-vous, ça court vite. Là.
Mais c'est ça.
Mais tu parlais des Ewoks tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Ouais,
les Ewoks qui sont peut-être pas aussi gentils, c'est tes écœurs, comme tu disais.
Ben, les Ewoks, c'est ça. C'est qu'il y a une espèce de mythe comme quoi tout le monde trouve que les Ewoks sont pas efficaces, sont poches, sont nono, puis ils se battent avec des bâtons. Je m'excuse, mais quand tu tournes le coin, puis il y en a 60, là. Les bâtons vont faire mal pareil. C'est pas une question de puissance, c'est une question de quantité. C'est le multiplicateur qui l'emporte souvent. C'est d'ailleurs l'aspect du jeu qui est très intéressant. À ceux qui sont habitués de jouer des jeux tout seuls et ne pas vraiment interagir avec les autres, vont avoir beaucoup plus de difficultés à s'en sortir que ceux qui... Puis l'expérience va rester assez linéaire. Il n'y aura rien, ils vont rester dans le cadre du jeu. Puis
tu te feras pas de fun.
Il y a du fun à avoir, évidemment, à essayer de battre le système, puis c'est sûr que ça va bien. Je veux dire, il y en a qui sont déjà rendus maîtres d'une classe professionnelle, et puis j'imagine que si, à moi, étant donné que moi je fais beaucoup plus de jeux de rôle, je mets moins de temps dans
le développement de personnage,
d'expérience, et plus dans le développement de relations interpersonnelles au sein du jeu.
Raconter l'histoire, dans le fond.
C'est exactement. C'est que moi, j'ai décidé, moi, j'ai vu ce que les développeurs voulaient faire, puis j'ai dit, parfait, vous m'avez donné un outil, je vais m'amuser avec. D'ailleurs, ça rapporte fruit, parce que maintenant, lorsque je demande un service ou une faveur, je l'ai pratiqué automatiquement. Les gens vont se déplacer pour venir me rendre service lorsque ça va pas bien, des choses comme ça. J'ai un ami qui, à un moment donné, il voulait réparer, il se battait avec un Vibro Knuckler. C'est comme un coup de poing américain, mais avec la technologie des Vibroblades. Fait que vous imaginez que ça devient intéressant.
Tu peux passer au travers avec un coup de poing.
Il essayait de le réparer, mais il l'a brisé. Fait que là, il s'est décidé à faire le jeu de rôle, puis il s'est mis dans un état émotif. Puis là, tout le monde a commencé à dire, mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Puis pourquoi t'as pas l'air affilé? Des choses comme ça. Puis lui, c'est lui de répondre. J'ai essayé de réparer mon vibro nacleur et je l'ai brisé. Bon, ben, il s'est mis à mouiller des pourboires dans ses poches à coût de 2000, 3000, 5000, 6000 crédits. Là, il est comme, y a-t-il quelqu'un qui sait où est-ce qu'il y a un fabricant d'armes pas loin? Au bout de 5 minutes. Donc, quand on travaille au niveau du roleplay, on arrive à nos fins sans pour autant travailler. On arrive à des résultats tout aussi bien en faisant du jeu de rôle qu'en essayant tout simplement de t'approcher tout ce qui bouge.
Puis toi, ton personnage dans le jeu, c'est quoi, en fait?
Je suis content de dire que je suis une Rhodian féminine et la seule dans le secteur.
Donc, attends.
J'ai plusieurs, j'ai plusieurs prétendants. Et je sais pas si c'est un hommage à mes habiletés de jeu de rôle, mais il y a pratiquement tout le monde avec qui j'interagis sont convaincus que
c'est une femme,
à l'arrière du personnage.
C'est pour ça que tout le monde est gentil avec toi.
C'est exact. C'est ça. Et d'ailleurs, les gens qui l'ont appris par la force des choses ont réalisé, mais mon Dieu, mais pourtant elle est tellement fine, comme si parce que c'est un gars au bout.
Il peut pas être fin, c'est ça.
Mais c'est pas grave, je le prends pas personnel, au contraire, je le prends positivement.
Alors, mademoiselle qui nous écoutez, vous pouvez vous rendre compte que Wookie Mart est très en touche avec son côté féminin.
Merci.
Puis tu racontais aussi pendant la pause qu'il était arrivé un événement dans la vie autour.
On a vécu quelque chose d'assez dramatique dernièrement. D'ailleurs, un membre de notre communauté de jeux de rôle, parce qu'on a vraiment une petite communauté très je dirais médium, mais pas petite, elle est moyenne. On a à peu près 20-25 personnes là, qui interagissent régulièrement. Et puis un de ces personnages-là qui est, à mon sens, une des meilleures pour le jeu de rôle, pour ce qui est de l'aspect du jeu de rôle, puis de créer une ambiance très positive autour d'elle, a décidé, pour des raisons que j'ignore, parce que j'ai pas jasé avec elle, hors personnage, que son personnage devait mourir. Elle avait, en gros, le personnage a été capturé par des Jawas sur Tatooine.
Donc, ironique que ça puisse off the Jawas.
Aussi ironique que ça puisse paraître. Et puis, elle a été vendue en tant que, parce que c'était une entertainer. Elle dansait. Pour son métier de base, c'était dancer. Donc, évidemment, elle a abouti dans le palais de Jabba. Mais étant un petit peu récalcitrante, Jabba a décidé de ne pas s'emmerder trop avec et il l'a foutu dans le plancher. Donc, elle s'est fait exécuter. Donc, on est tous en deuil présentement. On vit un deuil assez intense. Ça a généré...
On va juste monter le volume de la musique qui fit. Encore une fois.
Bon, ben,
un événement. Qui-Gon's funeral.
Non, mon Dieu, Seigneur. Oui, non, j'admets que ça doit être assez intéressant. Donc, on est tous en deuil un petit peu ces temps-ci. Et puis, ce que ça veut dire, c'est que probablement qu'une grosse partie d'entre nous vont se pointer dans le palais de Jabba pour essayer de faire comprendre aux développeurs qu'on est en deuil. Et puis, parce que c'est ça qui est intéressant. Les développeurs sont très attentifs à ce qui se passe dans le jeu. Des personnages, je suis aussi content de dire que j'ai mérité un écusson, une accolade de la part des développeurs pour ils ont lu mon profil, parce qu'on peut tous se créer un profil, une page que les gens peuvent regarder quand ils nous rencontrent. Ça donne une biographie un petit peu brève là, du personnage. Moi, ce que je m'amuse à faire, c'est mon journal. C'est mon journal personnel. C'est que j'écris quand une mise à jour
des événements spéciaux se produisent.
Quand une mise à jour s'impose, ce que je fais, c'est que je prends une image du texte pour ne pas le perdre. Puis, ce que je fais, c'est que j'en ajoute. Parce qu'il y a une quantité limitée de ce qu'on peut ajouter. Okay. On ne peut pas écrire un livre dans notre biographie, malheureusement. Mais ce que ça permet, c'est qu'il y a un développeur qui a aimé ce que j'avais écrit, puis il m'a tout simplement accoté une accolade. Puis les gens me demandent, mais comment t'as fait pour faire ça? Ben, je sais pas, un matin je me suis levé, puis c'était là.
Tu t'es levé à côté du développeur?
Non. Mais, donc c'est ça. Ce que je vais essayer de faire à travers le jeu de rôle, c'est d'essayer de convaincre les membres du groupe d'aller faire un point, de faire comprendre aux développeurs qu'on est tous en deuil, qu'on n'est pas nécessairement très content de ce que Jabba a fait. Donc on va essayer de passer notre message. Je sais qu'on est limité dans ce qu'on peut changer au niveau de l'univers.
Jabba contrôle un peu trop, là.
Oui, c'est ça. Mais non, mais ce qu'on pourrait faire. Mais dans le fond, c'est juste elle qui a fait ça. Parce que la façon que je l'ai appris, c'est qu'elle m'a envoyé un courriel.
OK.
Et puis, après ça, elle n'est pas revenue en ligne. Donc, tu fais comme, oupalaï. Ça joue dur. c'est drôle parce qu'on avait vraiment tous le mouton dans la gorge, toute la gang. On était comme, attends un peu là, comment est-ce qu'on fait pour dealer avec ça? Là? C'est pas c'est cool. Ça. Surtout que c'est un personnage qui, elle était clé au sein de notre communauté. Elle entretenait beaucoup de gens. Puis elle était un peu à la source de l'introduction de tout le monde comme ça. Parce que la façon dont cette communauté-là s'est connue, c'est lors d'une fête d'anniversaire qu'elle avait organisé pour sa fête à elle. Okay. Le joueur en arrière, la personne qui joue à l'arrière du personnage, avait décidé, c'est ma fête ce soir, on s'en va dans un
coin. On va fêter dans Star Wars Galaxy.
Il y avait un coin de Corellia qui était super intéressant, qui est un petit village sur une île. Ça a l'air d'un resort super intéressant, c'est le fun. Fait qu'on était dans l'hôtel, il y avait un groupe d'à peu près 8 à 10 musiciens. Ça a été très intéressant au niveau de l'acoustique. Ça dansait, ça buvait, ça mangeait, il n'y a rien qui se faisait pas. Et puis après ça, ça s'est suivi d'un feu d'artifice pour se terminer en beach party sur le bord de la plage. Donc, c'est là que les amitiés se sont soudées. Ça a fini, on se racontait des histoires de fantômes autour d'un feu de camp.
Ça donne le goût de jouer en mood.
C'était assez intéressant. D'ailleurs, le soir où j'étais à cette fête-là, j'étais dans un commerce où on peut jouer en réseau. Il y avait plusieurs ordinateurs, donc il y avait d'autres gens qui jouaient à d'autres jeux.
Tu fais tête dans le jeu et hors du jeu, pratiquement.
Non, mais ils venaient nous voir jouer à ce jeu-là, puis ils disaient, hey, vous êtes capable de faire ça? Ouais, ouais. Puis deux jours après, trois jours après, les gens s'étaient acheté une copie du jeu, puis ils étaient embarqués. Là. C'est comme un virus qui se répand.
C'est bon. Ben, c'est super intéressant. Tu reviendras parler de tes aventures.
Ah ouais, quand l'acte 2 va se résoudre, là, on va venir vous en parler.
C'est excellent. Donc, je pense qu'on va finir l'émission là-dessus, hein, parce que Chronique événement très rapide d'ailleurs.
Ah oui, oui, on va faire ça rapidement.
Alors, 18 et 19 octobre prochain à Paris, le Collector's Rendez-vous organisé par la boutique Arkham. Star Wars Universe et plusieurs autres sites francophones organisent également une soirée d'Halloween à Disneyland de Paris le vendredi 31 octobre 2002, car c'est la seule soirée de l'année où les costumes y sont autorisés. Puis pourtant... Ouais, merci 2003. et pourtant... Non, mais c'est dans leur news en plus. Ah, il va falloir qu'on leur tape sur les doigts eux autres. Et pourtant, c'est bourré de monde avec des costumes et des têtes de Mickey à longueur d'année. Et voilà. Alors, et maintenant, côté de notre côté de l'océan, le vendredi 31 octobre prochain, party d'Halloween organisé par les Montreal Underground Knights. Alors, passez sur les forums de site.net pour vous
tenir au courant.
Vous tenir au courant pour signer, pour nous informer de votre présence, parce que ça serait intéressant. Le 6 novembre prochain, encore une fois organisé par les Montreal Underground Knights, le souper avec Michael Shear, de nul autre que l'amiral Ozel. Alors, coût de $40 pour toute la soirée, incluant repas, breuvage et compagnie.
Et c'est pas un petit repas McDo, là.
Non, c'est un repas de quand même haute qualité. Et le 8 novembre prochain, évidemment, la convention Concept qui aura lieu au Days Inn de Montréal, coin Guy et René Lévesque. On vous invite à aller visiter le site www.monsffa.com et cliquer sur la bannière Concept pour plus de détails. Et évidemment, du 14 au 16 novembre prochain, le congrès SFX au Palais des congrès de Montréal, l'exposition de science-fiction et de fantastique de Montréal, dont c'est la première année ici dans notre belle ville montréalaise.
Espérons pas la dernière.
Exactement, qui ont plusieurs invités, dont Peter Mayhew, qui est nul autre que Chewbacca. Et je crois qu'on a quelqu'un qui sait très bien où est-ce qu'il va se trouver cette fin de semaine-là. Et on va probablement se trouver sur place nous-mêmes.
Exactement.
Pour répondre à vos questions et peut-être même faire une petite émission spéciale là, en direct de la convention. C'est cela?
C'est bon. Donc, je vous rappelle qu'à 19h, heure québécoise, c'est notre émission en anglais. Donc, bah, évidemment, si vous l'écoutez présentement, c'est que vous l'écoutez préenregistré. Donc, ça sert à rien que je dise ça. la prochaine émission devrait être la semaine prochaine, le 19 octobre, donc surveillez le site swendirect.com pour les développements. On va remercier nos commanditaires, c'est Clapoinette, Legend Action Figures, Friété Collection et simplenet.ca qui devraient rétablir notre serveur bientôt, ainsi que les partenaires, la Ligue Costumée Francophone, le magazine R2, Fan Wars en Belgique, Star Wars Universe, R2-D2 Menace, Roger One, Fan Wars avec un Z, Star Wars Holonet, Univers One, la 501e française et Star Wars Galaxy France, le site de l'officiel Camui Web et Anakin Web. Tous les liens sont disponibles sur swendirect.com. Alors,
je veux juste faire entendre le nouveau son qui réveille notre ami Wookie Mart à tous les matins. Alors, ça sonne comme ça. Et voilà, c'est le nouveau réveil de notre ami Martin qui passe peut-être un peu trop de temps dans sa vie sur Star Wars Galaxies.
Donc, de la part de toute l'équipe, de Frank Gerio, de Martin aussi, on vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, revenez-nous la semaine prochaine sur Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars.
Vous étiez à l'écoute de Star Wars en direct. Surveillez StarWarsOnDirect.com pour connaître la date de la prochaine émission. Cyclan.net, c'est
Les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.citlan.net.
Nul besoin de traverser les ponts pour vous procurer vos produits dérivés de Star Wars. Priorité collection à tout ce que vous cherchez et bien plus encore. Venez découvrir nos nouveaux locaux sur la rive sud de Montréal au 2189 Chemin Chambly à Longueuil. Chez les priorités collection, notre priorité est la vôtre. 450-651-8482.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Hi, I'm Sean Lee.
And I'm Shane Dix, and we're the authors of the new Jedi Order trilogy, Force Heretic.
You're listening to Star Wars on Direct.
Sir, if you'll not be needing me, I'll close down for a while.